Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description. Bonjour. Pour la 3e rediffusion du mois d'août, j'ai eu envie de remettre sur le devant de la scène Dorothée Barthes. En découvrant son parcours, vous comprendrez le jeu de mots. Dorothée fait également partie des magnifiques rencontres du podcast. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai comme l'impression de la connaître depuis toujours. J'adore son humour et son authenticité. Belle écoute.
Mais une fois que ça s'est terminé, tout m'était mandat et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant « mais fais-en ton métier ». J'ai dit « bah ouais, non, je sais pas ». Et je venais d'avoir mon deuxième, je me souviens cette soirée-là, j'étais épuisée. Pour moi, j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme et je me disais d'instinct « bah non, je vais pas aller dans un truc encore plus galère, quoi. Je vais pas me lancer dans le spectacle, c'est n'importe quoi ». Mais n'empêche que j'avais ça en moi et on me disait « t'as du talent, quoi ». Aujourd'hui, je me donne le droit d'être une artiste créa dans ma boîte. Et oui, je suis fondatrice et oui, je suis chef d'entreprise, mais n'empêche que c'est moi. Voilà, toutes mes expériences professionnelles à chaque fois, en fait, avec du recul, un regard extérieur, on se dit waouh, c'est dingue ce que j'ai fait. Je prenais ça comme des échecs, en fait, à chaque fois que j'arrêtais. Et en fait, là, Jo, je sais que c'est une. Je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend, des choses qui ont du sens, on a une vraie action solidaire. Ça, je suis hyper fière de ce qu'on a fait, ouais.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela fait plusieurs mois que je rêve d'interviewer Dorothée. Mais son début d'année a été plus que chargé avec la clôture d'une levée de fonds de 2 millions d'euros et son associé en congé maternité. Dorothée fait partie de ces femmes qui clairement m'impressionnent. Avant de vous en dire plus, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode du podcast, et aussi car ça m'aide à le faire connaître. Si vous avez envie de plus d'outils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter hebdo en vous rendant sur le site pourquoipasmoi.co. Allez, revenons-en à Dorothée. Dorothée a fait Sciences Po, Lyon, est partie pendant près de 2 ans en mission humanitaire à Madagascar, voyage qui a changé sa vie. Quand elle revient en France, elle devient chroniqueuse sur France 5. Pour différentes raisons qu'elle nous raconte dans l'épisode, elle quitte le journalisme et monte son One Woman Show qui va faire un carton. Suite à ses 18 mois sur scène, Dorothée devient entrepreneuse et cofonde la très belle marque de tampons en coton bio, Jo, qui cartonne. Bref, attendez-vous à un épisode plein de rebondissements, avec beaucoup d'humour, où nous avons beaucoup ri et même un petit peu pleuré. Bienvenue dans l'univers de Dorothée Barthes.
Bonjour Dorothée.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Alors, c'est ma planche de surf. Alors, une planche pas du tout professionnelle, hein, juste une planche achetée chez Decathlon, mais que j'adore. Et surtout, en fait, elle symbolise tous les moments de dingue que je vis en allant sur la côte et en surfant à mon petit niveau. Mais c'est des moments où j'évacue tout et je suis dans l'eau, ce qui est quand même l'endroit où je me sens le mieux au monde.
Et depuis combien de temps tu surfes ?
J'ai commencé à 40 ans. En fait, j'ai eu cette planche pour mes 40 ans. Et en fait, c'est mon mari qui me l'a offerte. Et le jour de mes 40 ans, on est allé sur la côte. Il y avait des vagues. Et hop, je me suis lancée. Et ça a été le bonheur. En fait, je faisais du skate et de la planche à voile. Donc, je savais comment monter dessus.
T'avais quelques
heureusement, bases. Voilà. Heureusement que les vagues n'étaient pas trop grosses. Mais j'ai vu la lumière.
Ouais. Et tu disais dans le podcast de Génération XX que ton rêve, ça serait de surfer, d'avoir un mari qui s'occupe de toi et de passer tes journées à surfer.
Voilà, donc c'est ça, c'était le rêve de mes 13 ans. C'était d'avoir un mari designer de planches de surf. On habiterait à Hawaï sur la plage. J'avais vu ça dans un magazine, une famille comme ça, dans le magazine Wind de mon grand frère. Et donc, il shaperait des planches. Et moi, j'en ferai. Et puis, j'élèverai mes enfants sur une plage. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais ça va, on s'en rapproche. Je suis pas loin de la côte.
Oui, aujourd'hui, tu habites à Nantes, sachant que... où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi?
Alors, je suis née en Normandie, à Saint-Lô, une petite ville pas belle du tout, parce que complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais une petite ville posée au milieu d'un département, la Manche, qui est juste magnifique, et à 25 km de la mer. Donc vraiment enfance très calme, très axée autour du sport. Il y avait rien d'autre à faire en fait que du sport à Saint-Lô. Donc je nageais beaucoup. J'ai beaucoup nagé de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai nagé tous les jours en fait. Et ça m'a
Tu nageais quoi, dans la mer?
En natation, je faisais de la natation.
D'accord. Okay.
Donc la natation en compétition. Et donc je suis née là-bas et j'y ai passé j'en suis partie qu'à 15 ans.
Ok.
De Saint-Lô, et avec joie quand même, parce que c'était petit et que je sentais que le monde frémissait autour de moi pour aller à Tours, ce qui est pas non plus New York, mais voilà, je suis partie de Saint-Lô à 15 ans.
Et t'étais quel type de petite fille?
Complètement ce qu'on appelle, je déteste ce mot, mais garçon manqué, mais j'aime pas ça du tout comme mot. Non, aujourd'hui ça peut pas se dire garçon manqué, mais disons que je ressemblais beaucoup à un garçon et j'aimais que les jeux de garçons parce que j'étais hyper sportive et j'avais que des potes garçons jusqu'au CM2. Donc, je nageais beaucoup, mais là j'avais plein de potes filles dans mon équipe de natation, mais je jouais beaucoup au foot, je faisais du bicross, du skate, enfin j'étais très très sportive. Et j'avais aussi un petit paradis qui était l'île de Noirmoutier, où on avait la chance d'aller passer toutes nos vacances sur une petite plage, et c'est là où je pense, enfin, la mer a beaucoup 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 d'importance, plus que celle des côtes de la Manche. C'était l'île de Noirmoutier, où tous les étés je retrouvais mes amis, la plage et le paradis. La chanson La Madrague de Brigitte Bardot, c'était ça.
Et à cette époque-là, du coup, on sait ce que tu voulais faire quand tu avais 13 ans, vivre sur une plage et surfer. Qu'est-ce que tu as...
La glande était déjà assez présente. Ouais.
Et quand tu avais 6 ans, c'était quoi tes rêves d'enfant ?
Toute petite, je pense que j'avais des velléités d'être comédienne, mais c'est venu très très petite. Ouais. Et dans ces eaux-là aussi, réalisatrice. Et donc, à 10 ans, mes parents m'ont abonné au magazine Studio, qui est plutôt un magazine pour les adultes, mais j'étais dingue de cinéma. Et ça aussi, c'était un des trucs qu'il y avait à Saint-Lô, c'était un cinéma. Et donc, j'y allais tous les lundis soirs, on allait voir un film, parce que il y avait personne et c'était la séance moins chère. Et donc, je me souviens qu'à partir du collège, tous les lundis soirs, avec ma mère, on allait au ciné voir un nouveau film. Et j'étais dingue de cinéma. Et ouais, 6 ans, je pense que je rêvais d'être actrice, d'incarner des personnages.
Ouais. Et tes parents, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier ?
Ma mère était femme au foyer beaucoup, et après elle était documentaliste dans un lycée de la ville. Et mon père, lui, il était commercial pour une coopérative, une grosse coopérative laitière du coin, puisque la Normandie
est
un département producteur de lait. Et voilà.
Et au moment du coup où s'est posée la question de quelles études tu allais faire, comment ça s'est passé ?
Quelles études j'allais faire, ouais. Et je me pose encore la question, parce que c'est un truc, je me dis, mais comment je me suis retrouvée là au final, parce que c'est peut-être pas ce que j'avais dans le cœur. Enfin, c'est bizarre, parce que ce que j'avais dans le cœur, c'était quand même beaucoup de la création. Et en fait, j'étais bonne à l'école. Je savais pas ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi le côté création, truc artistique, C'est pas imposé. Si, il y a un moment, en seconde, donc j'ai déménagé à Tours, et je sais qu'il y avait une seconde, c'était à l'époque L3, et c'était audiovisuel, réalisation audiovisuelle. Je me suis dit, mais oh, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Je m'amusais avec le caméscope de mon père, tout, j'arrêtais pas de faire des petits films, des trucs. Et en fait, donc ma mère est allée m'inscrire, et là, on lui a dit, ah bah c'est dommage qu'elle fasse L3, elle a un bon niveau. C'était un peu le truc. Et il vaut mieux qu'elle fasse une filière normale, L1, je sais pas quoi, avec des maths. Moi qui déteste les maths, mais bon, j'avais un bon niveau. Bref. Et donc, bah, là, ouais, c'est, en fait, le côté artistique, c'était un peu le truc un peu sous, une sous-catégorie, finalement. Ouais. Et donc, je savais pas quoi faire. J'adorais l'histoire en terminale. On me disait de faire une prépa littéraire, mais j'aime pas bosser. Enfin, j'avais un bon niveau, mais je suis un peu pas paresseuse, mais je suis pas une bosseuse, quoi. Et donc j'ai pas voulu. Donc j'ai fait une fac d'histoire où je me suis emmerdée prodigieusement. Et j'ai croisé là-bas une fille qui m'a dit « Moi, je passe, on se fait chier, moi, je passe les concours pour faire l'IEP, donc Sciences Po Grenoble, je suis sûre que tu peux le faire. » Et donc, j'ai choisi Lyon. Enfin, j'ai passé que ce concours-là parce que voilà, toujours ce petit côté glandeuse qui me disait « Non, ne passe pas tous les concours, passe-en, hein. » Et puis, on verra bien. Et donc, j'ai eu Sciences Po à Lyon, donc des études de sciences politiques très intéressantes. Mais ouais, c'était hyper intéressant intellectuellement. Mais c'est pas ce que j'avais dans le cœur, je pense.
Ouais. Et à ce moment-là, quand tu fais ces choix-là, ton entourage, comment il t'accompagne dans cette...
Je pense qu'il y avait beaucoup l'influence de ma mère, qui m'influençait pas mal à l'époque, comme je savais pas trop quoi faire. Elle m'a dit « Ah, mais j'ai vu La Fille de Machine, elle fait Sciences Po, c'est super, je suis sûre que tu pourrais le faire, etc. » Donc bon, ça reste dans ta tête, tu veux un peu plaire aux parents et t'y vas, quoi.
Ouais, c'est plus en mode prestige de ses études plus que le contenu en tant que tel.
Ouais, c'est ça, faire un truc bien, Sciences Po, ça sonnait bien. Moi, je venais d'un milieu assez bourgeois, mais pour autant, comme j'avais grandi à Saint-Lô, j'avais pas autour de moi. En fait, je remarque vraiment aujourd'hui, tu vois, les gens qui ont grandi à Paris, dans un milieu assez élitiste, où les frères et sœurs font des prépas et tout ça, bah, voilà, ils le font, les autres le font. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que j'avais les capacités de faire ce genre de choses. Tu vois, mais tu vois, Sciences Po Paris, pour moi, c'était, ah ben non, je pourrais jamais. Et après, j'ai bossé avec des gens qui ont fait Sciences Po Paris, qui étaient hyper intelligents. Mais tu vois, pour autant, c'est pas non plus tous des génies, quoi. Et moi non plus, hein. Mais en fait, t'es quand même vachement influencé par le milieu où tu grandis. C'est là où après, tu rencontres dans ton boulot où tu recrutes des gens où tu te dis, putain, mais toi, si t'avais été dans un milieu bourgeois, CSP++, bah, t'aurais fait l'ENA, quoi. Et ben non, en fait, t'en as, bah, ils ont fait un BTS parce que c'était leur entourage leur proposait ça. Et moi, déjà, Sciences Po Lyon, pour moi, waouh, qui venait de Saint-Lô, j'avais pas cet entourage-là. Mes frères et sœurs faisaient d'autres trucs. Et donc, pour moi, c'était déjà vachement bien, quoi.
Ouais. C'est vachement, enfin, moi, tu vois, pour le coup, j'ai grandi dans à Neuilly-sur-Seine. Donc, moi, justement, j'ai grandi dans ce côté-là élitiste et tout. Ouais. Et en fait, moi, j'en ai retiré un truc en mode où j'étais bonne élève, mais j'étais pas très bonne. Et comme j'étais pas très bonne, bah, on m'a toujours fait penser que j'étais une merde sans vouloir être vulgaire. Ouais, et du coup, en fait, c'est, je pense que le juste équilibre, enfin, je me pose vachement de questions par rapport à mes enfants en me disant, là, tu vois, mon fils, il va rentrer au collège dans un an et demi. Et du coup, tu dis, OK, qu'est-ce que je veux pour eux? Est-ce que je veux un collège où ils vont être un peu coucounés? Est-ce que je veux un collège où ils vont vraiment être tirés par en haut? Parce qu'après, bon, ça dépend pour chaque enfant, en fait. Et tu te dis, ouais, quel est le bon...
Ouais, en fait, c'est chaque enfant, si tu fais, par exemple, il y a un enfant qui te tire vers le, que tu tires vers le haut dans 10 ans, peut-être qu'il te dira merci, et l'autre, il te dira que t'as flingué sa vie, quoi. Donc,
Ouais, c'est ça. C'est Donc du coup, tu fais Sciences Po et après,
à Lyon. Très important parce que après, quand je suis allée bosser à Paris, on m'a dit, ah oui, un IEP de province. Ah pardon, excuse-moi. Parce que Sciences Po, normalement, c'est Paris.
Voilà. Ah oui. Attention. Excusez-moi. Bon, on va peut-être raccrocher du coup.
Hein. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais.
Et du coup, après, donc Sciences Po Lyon, qu'est-ce que tu, quand il a fallu chercher un premier boulot
Eh bien, en fait, j'avais très envie de découvrir le monde. Vraiment, c'était un truc qui... En fait, on n'avait pas beaucoup voyagé avec mes parents parce qu'on allait beaucoup dans Moutier, ce qui était déjà une chance immense d'avoir une maison là-bas. Mais on avait fait un voyage au Sénégal pour leurs 25 ans de mariage et l'Afrique m'attirait vachement. C'était juste une semaine, tu vois, en touriste, mais j'avais été assez frappée. Et du coup, je me suis dit, Sciences Po, bah hop, diplomatie, ça va me permettre de voyager, découvrir des choses et tout ça. Et du coup, pendant ce qui est chouette avec un IEP, c'est que tu as une chouette carte de visite pour faire des stages. Ouais. Et donc, j'ai fait un stage à l'ambassade de France au Cameroun, où j'ai découvert que ce qui m'attirait, c'était plus... Enfin, c'était pas avec la diplomatie que j'allais découvrir le monde, en fait. Ouais. Parce que dans l'ambassade, c'était un milieu très expat, un peu refermé sur lui-même, etc. Et heureusement, j'ai connu une copine camerounaise qui m'a fait découvrir la ville, la danse africaine, et j'ai fini à habiter au quartier avec elle plutôt qu'à l'ambassade. Et j'ai fait un stage aussi à l'ambassade de France, alors à Rome, mais alors c'était l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, donc pas le palais Farnèse.
Ouais.
L'autre, parce que bref, c'est ça que j'ai trouvé, où je me suis ennuyée prodigieusement avec un mec au-dessus de moi, complètement frustré par sa carrière de haut fonctionnaire qui avait pas marché, mais il était tellement con que j'ai envie de lui dire, bah, si t'avais été moins con, franchement, ça aurait mieux marché, je pense. Et bref, donc Sciences Po, c'était ça au départ. Je me disais, je voudrais être diplomate, je sais pas comment, en faisant après un truc de diplomatie, un master, j'en sais rien. Mais je me suis aperçue que c'était pas la vie, quoi. La diplomatie, ça allait pas m'épanouir. Et en fait, à Rome, pendant mon stage, donc au bout de 2 mois, sous la férule de ce petit con, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, attends, moi je bosse à Radio Vatican et ils prennent des stagiaires. Donc j'ai fait l'oups. Et je suis catholique, mais voilà, pas envie non plus de bosser pour notre Seigneur. Et en fait, Radio Vatican, c'était la rédaction française, c'était des infos internationales, c'est un peu le RFI. Enfin, c'était les mêmes infos que RFI. En gros, c'était des infos internationales, donc très chouettes. Et avec des infos sur le pape quand il faisait des déplacements, mais pas plus. Et donc, je me suis pointée. C'est là où j'ai commencé à faire ce truc d'avoir beaucoup de culot, une espèce de mélange d'inconscience et de complètement désinhibé. Où en fait, fallait avoir fait Sciences Po Paris pour avoir un stage à Radio Vatican. Je ne sais pas pourquoi, le mec qui sélectionnait les stagiaires, c'était Sciences Po Paris. Et je me suis pointée un jour, donc ils n'avaient pas de place a priori, enfin voilà, je ne sais pas, j'ai contacté, je n'ai pas eu de réponse. Et je me suis pointée à Saint-Pierre, là où il y a Radio Vatican, et dans le hall, et j'ai dit bonjour, j'ai rendez-vous avec Federico Lombardi, qui était le porte-parole du pape et directeur de la Radio Vatican. Et on m'a dit, mais non, j'appelle son bureau, il n'y a rien. Je dis, non, mais attendez, je viens de Paris, vous n'allez pas me faire ça, j'ai ce rendez-vous. Voilà, et donc le mec est descendu, le porte-parole du pape, et j'ai dit bonjour, je voudrais un stage, regardez mon CV. Il m'a dit, Sciences Po Lyon, c'est comme Sciences Po Paris. Je dis, oui, bien sûr, évidemment.
Si,
bien sûr. Et du coup, j'ai eu un stage de 5 mois à Radio Vatican. Et en fait, le premier jour, donc, je suis arrivée donc, dans cette rédaction, une petite équipe de, je ne sais plus, 8-10 personnes, 8-10 Français, des très bons journalistes. Et c'était au moment de la guerre dans les Balkans. Et on m'a dit, bah, t'es là, ok, donc tu me chopes, tu vas chercher quelqu'un qui est en train de vivre sur le front. Machin. Et en fait, j'ai été tout de suite dans le truc et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai appelé mes parents, je me souviens, en disant, j'ai trouvé ma voie, je veux être journaliste.
Ah, génial, ça me donne des frissons.
Et là a commencé un moment, enfin voilà, c'était parti pour quelques années de vie professionnelle dans le journalisme,
ouais.
Qui n'était pas reposante. Mais,
Parce que du coup, toi, tu n'es pas partie au front, tu es restée à
Rome. Non, en fait, ils n'ont pas les moyens, enfin, ils n'avaient pas du tout les moyens, donc ils trouvaient des correspondants là-bas, c'était que de la correspondance. Okay. Par téléphone, mais pour autant hyper intéressant. Tu vois, le deuxième jour, on me disait, tiens, il y a l'ambassadeur de Tunisie qui vient, il y a tel problème dans son pays, est-ce que tu peux aller l'interviewer? Et quand t'es jeune journaliste, enfin jeune, même pas, j'étais pas du tout journaliste, j'avais même pas fait d'école, et que t'as en face de toi, poum, quelqu'un comme ça, là où d'habitude, tu vois, on commence un peu par la petite presse locale, à interviewer les machins, le club de sport et tout, et ben l'ambassadeur de Tunisie à Rome, ben, c'était un petit peu impressionnant. Et en fait, on avait quand même, comme on était Radio Vatican, accès à chaque fois à des gens de très très haut niveau au téléphone. Il fallait vachement bien préparer ces interviews, et là, moi j'adore la géopolitique, l'actualité internationale, et donc c'était top d'être dans ce bain là direct, quoi, pendant un stage.
Et t'as eu des peurs à ce moment là
non Non, je ne sais pas pourquoi. J'envisageais, je crois, la vie à ce moment-là comme une succession de pochettes surprises où il m'arrivait toujours des trucs chouettes. Ouais. Parce que jusque-là, j'avais eu de la chance et donc pas de peur. J'avais lu des bouquins. J'étais assez baignée par ce truc un peu romantique du jeune journaliste. Comme j'avais lu Studio Magazine aussi, tu vois, tous ces gens qui sont devenus grands réalisateurs en commençant par distribuer le courrier dans les couloirs de MGM, des trucs comme ça. Je ne sais plus comment on appelle cette grosse boîte, mais bref. Donc, j'étais un peu nourrie à ça. J'avais lu Philippe Labro, Un début à Paris. Donc le gars qui avait commencé comme ça un peu en s'infiltrant dans les boîtes en étant courtier je sais pas quoi et qui est devenu grand journaliste. Donc voilà, j'étais un peu nourrie de ça, alors que la réalité c'était quand même que si t'as fait une école de journalisme avec un bon réseau, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais ouais. Bon, dans ma tête c'était pas comme ça, donc pour moi il y avait pas de frein à ce moment-là. Ouais. Donc j'ai dit à mes parents, ils voudraient faire une école de journalisme quand même pour me spécialiser encore 2 ans. Et là, ils m'ont dit, t'es gentille, tu te démerdes.
Ah ouais? Oui. Parce que financièrement, ils ne voulaient pas...
Ils auraient pu, mais ils ne voulaient pas, non.
D'accord. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu?
Sans surprise, je ne sais pas... Ouais, non, je savais bien qu'ils n'avaient pas envie d'investir plus de 4-5 ans dans mes études. Et donc, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais rentrer par la fenêtre, je vais me démerder, voilà. Donc, je suis revenue à Paris. Et là, j'avais décidé, j'avais entre-temps rencontré mon mari. Enfin, on se connaissait depuis toujours, mais voilà, on était sortis. Ok, on va dans les trucs un peu, dans les histoires un peu. Ok, on fait une parenthèse love ou pas?
Ouais, vas-y, en faisant la parenthèse love.
Donc, mon meilleur ami que je connaissais depuis toute petite, depuis bébé, qui s'appelle Sébastien, à 23 ans, je me suis aperçue que c'était l'homme de ma vie. Génial. Et on est sortis ensemble. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que je savais que j'allais marier avec lui. Et bref, je suis rentrée de Rome, je suis arrivée à Paris. Et voilà, et on s'est dit, lui, il terminait ses études et j'avais... une année après laquelle on se disait on voudrait quand même après peut-être partir à l'étranger, enfin je sais pas, on avait des envies d'ailleurs, mais toujours est-il que je suis rentrée de Rome en me disant bah je vais devenir journaliste en presse écrite et puis bah avec un peu de volonté, avec beaucoup de volonté, ça va le faire, il y a pas de problème.
Et en fait, t'as trouvé ta double voie en même temps à Rome, ouais. Quoi. C'est le métier, ouais. plus l'amoureux, quoi. Enfin, l'amoureux, l'homme de ta vie.
Ouais. En tout cas, ouais, l'homme de ma vie. Ouais, je savais que c'était lui. On allait se marier un an plus tard, et donc j'avais un an pour être journaliste. Après, je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que je sais pas. Peut-être que j'étais une gosse gâtée ou je sais pas quoi. J'avais pas le côté pression financière. Pour autant, mes parents avaient dit bon, terminé maintenant, tu te démerdes. Mais je me disais bon que de toute façon ça irait, je sais pas, j'avais pas ce côté ma fille faut que tu gagnes ta vie et tout. En fait dans ma famille assez catho et les femmes sont à la maison et si elles trouvent un bon mari ça va quoi. Donc je pense que j'avais cette culture là en tête de bon quoi qu'il arrive au pire s'il y a un salaire celui de mon mec ça va, donc pas de pression. Mais la pression personnelle de cartonner. Là où j'avais choisi de travailler, quoi. Donc, il fallait que je devienne une journaliste dans un gros titre à Paris.
Voilà. Donc, et gros titre, c'était quoi, du coup, pour toi?
Moi, je voulais être journaliste à l'Express. Tu vois, journaliste international à l'Express, pour moi, c'était parfait, tu vois. Ils avaient okay. un bon service international. Donc, why not, quoi. Et donc là, j'ai contacté plein de journaux évidemment. Donc je me suis aperçue que c'était un peu compliqué. Comme j'avais bossé à Radio Vatican, je me suis retrouvée au journal La Vie. Et j'étais là, oh putain, non, pas un truc catho. Faut pas que je m'embourbe là-dedans, quoi. Après Radio Vatican, sur ton CV, merci. Après le cliché. Et en fait, pareil. Donc ils m'ont pris pour un stage de 3 mois qui s'est transformé en 9 mois où j'étais quand même pigiste. Enfin, c'était un truc. Ils avaient pas de thunes, donc ils prenaient des gens qui avaient envie et qui savaient écrire, qui payaient un peu au lance-pierre. Mais n'empêche que j'avais un an de formation où j'étais vraiment dans l'équipe de journalistes à La Vie, où j'ai pas du tout traité les sujets religieux, mais tous les sujets d'actu. Et ça a été une école extraordinaire pendant un an parce que j'avais comme chef de service. Un type qui s'appelle Olivier Noyas et qui enseignait à l'ESJ, donc à l'ESJ Lille qui est la meilleure école de journalisme en France. Et donc j'avais une formation sur le terrain, là où j'avais des potes qui étaient à l'ESJ et qui me disaient mais ce que tu vis c'est dingue, t'es direct dans un canard national. et où j'ai voyagé en France. J'ai fait un article en Italie du Sud sur les réseaux de prostitution. En France, il y avait à l'époque, c'était à l'époque du 11 septembre, c'était il y a longtemps. Ouh là là, je m'en aperçois maintenant, c'était il y a longtemps, je suis vieille. Il y avait une usine à Toulouse qui avait explosé, qui s'appelait AZF, ça avait fait beaucoup de bruit. Enfin, c'était très, très... un gros événement dramatique, il y avait personne pour y aller, ben pof, vas-y Dorothée. Donc c'est dingue quoi, quand c'est ta première expérience, là où par une école traditionnelle de journalisme, ben j'aurais commencé par faire Ouest France, un peu les clubs de sport, les trucs, ensuite voilà, enfin, et du coup là j'avais direct une expérience et une formation géniale en journalisme.
On en a parlé, j'ai interviewé il y a 2 semaines Stéphane Soumier, et qui disait que lui, bon, il a commencé en effet chez Europe 1 Direct, mais en effet, c'était les chiens écrasés.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, sujets nationaux directement, avec aussi des moments assez forts où j'ai interviewé, je ne sais même plus comment elle s'appelle, tu sais, la petite fille, il y a une image de la guerre du Vietnam où on voit une petite fille avec lui. Brûlée au napalm, qui court, et cette femme a fui. Elle habite aujourd'hui au Canada, et ben, j'ai fait un portrait d'elle, j'ai eu au téléphone pendant une heure. Donc il y a des choses comme ça, et c'était ma première année de journalisme, quoi. Donc ça a été génial, une année vraiment forte, et pour autant on se disait avec Sébastien, mon mari, donc lui il avait fait une école de commerce, et on se disait, donc on avait tous nos potes à Paris, c'était chouette, ça suivait son cours, mais on s'est dit tous les deux, la vie qu'on a là en fait, c'est celle qu'on va avoir sûrement dans les 10 prochaines années avec les mêmes potes. Et j'avais cette envie, moi, ça me brûlait de découvrir le monde. Et donc, je disais, mais je voudrais partir, je sais pas si pour faire une mission humanitaire ou autre, mais partir, quoi. Et faire cette parenthèse en dehors du système pendant un an. Voilà, j'en ai envie. Donc, je l'ai convaincue. Et on a cherché, en fait, donc on s'est dit, ça peut être pas mal de donner du temps aux autres. Et du coup, on a cherché des associations avec lesquelles partir. Et on a vu, enfin, en se renseignant, on a vu que volontaire de solidarité internationale, c'était un statut qui permettait de partir partout dans le monde avec, que c'était sérieux et que tu avais quand même des garanties au retour d'avoir le chômage, etc. Enfin bon, c'est un vrai statut. Et donc, on a candidaté pour être volontaire de solidarité internationale. Donc ça a été Madagascar, et finalement pas pendant un an mais pendant 2 ans.
Waouh. Et du coup, c'était quoi votre mission là-bas?
Notre mission là-bas, c'était alors déjà partir 2 ans, ça a été une vraie décision, parce que 1 an c'est une petite parenthèse, bon voilà, 2 ans c'est autre chose quoi. Et on nous disait non, c'est plutôt 2 ans les missions, parce que en 1 an on n'a pas le temps de faire grand chose. En gros, la première année on apprend comment ça se passe dans le pays, et la deuxième année on est vraiment efficace. Donc on s'est laissé convaincre. Et notre mission là-bas, donc c'était Madagascar, dans une ville de brousse, c'est-à-dire qu'il y avait l'électricité. Il y avait quelques routes un peu bien, mais c'était vraiment la brousse, au sens où enfin nous on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas internet. J'avais demandé, je veux bien partir mais j'ai une chasse d'eau dans ma maison, il y a pas moyen. Il y a pas moyen que je me tape des chiottes sèches ou dans un trou pendant 2 ans quoi. C'était une condition, c'est marrant hein.
T'avais déjà un rapport avec les toilettes
un rapport avec la salle de bain assez fort, avec le petit confort quand même. Et donc c'était une petite ville de brousse à 3 heures de taxi brousse de la ville malgache la plus proche, où on pouvait trouver un semblant de supermarché avec des rayons réfrigérés. Et là-bas on était parti pour être enseignant dans un collège lycée. Parce qu'en fait, il y avait eu une malgachisation. En fait, pendant 30 ans, on a dit aux malgaches, on arrête de parler français, on n'est pas une colonie, enfin, vraiment une volonté d'indépendance. Maintenant, on parle malgache dans les écoles malgaches. Et puis, à nouveau, il y avait eu un revirement où, hop, là, stop, maintenant on parle français et le bac va être en français. Et donc, les profs avaient pas été formés pour ça. Donc, même les profs avaient beaucoup de mal à parler français. Et donc, nous, on arrivait dans ce collège-lycée pour faire des cours en français. Donc, Sébastien, cours de maths. Okay. Et moi, c'était anglais, histoire, géo.
D'accord.
Et donc voilà, on s'adressait quand même à une population qui avait les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, parce que là-bas, c'est pas à gagner. Il y a plein d'enfants qui vont pas à l'école. Mais ça nous a permis aussi de faire d'autres projets. Moi, j'ai fait des projets avec les femmes, avec des femmes de brousse qui voulaient en fait aider leurs enfants aux devoirs. Et donc elles sont venues me voir en disant bah on voudrait apprendre le français avec toi. Et au final, bien sûr que j'allais pas leur apprendre le français, mais c'était des moments, il y avait des femmes qui vendaient des bananes au bord de la route quoi. Ça c'était ça leur vie pour nourrir leurs enfants. Et donc au final c'était un moment qu'on avait ensemble où il y avait quelqu'un, une Française qui venait pour elles passer un bon moment où elles n'étaient pas dans la lutte, dans la survie, dans le travail. Et donc c'était un moment, on avait appelé ça, ce petit cours, le jardin des dames, parce qu'il y avait le jardin d'enfants, le jardin des dames, et c'était des échanges assez dingues, et ça nous a quand même permis de vivre pendant 2 ans au milieu des gens. Donc on avait une maison en bois avec un toit en tôle, avec une douche et des chiottes, hein, mais on était, enfin, on ouvrait notre fenêtre et la cour, on avait la cour des voisins. Les voisins, ils faisaient, enfin, c'était le, on était dans le quartier avec les gens. Donc, le matin, c'était à 5 heures, les bruits des femmes qui préparent le petit réchaud, le riz du matin sur le charbon et tout. On était vraiment dans la vie de la brousse, quoi. Ouais. On a vécu 2 ans comme ça, qui étaient extraordinaires et à la fois très difficiles. Parce que tout le monde dit, waouh, c'est dingue ce que vous avez vécu. Ouais, c'est dingue. Et en même temps, bah, de temps en temps, t'as envie de voir tes potes, t'as envie de.
Moi, je et puis là, tu rentres pas le week-end pour voir tes copains.
Ah, non. Et puis, t'as 150 euros par mois. Alors, c'est beaucoup pour là-bas. Mais voilà, ça te permet pas, tu vois, tu te dis pas, tiens, moi, je vais à Tamatave, la ville à côté, je vais prendre l'avion pour me faire un petit truc à Tananarive, une petite journée d'expat. Non. T'as 150 balles. Donc, on s'est fait, t'es vraiment avec les gens. Et donc, il y a eu des moments dingues. Enfin, c'est difficile à expliquer. Il y a un côté ancien combattant où on arrive à se comprendre avec les gens qui ont fait la même chose. Tu sais, c'est un peu con, mais et au retour, on disait waouh, c'est dingue, ça devait être dingue. Et tu pouvais te baigner souvent? Oh, oui. Et en fait, c'est bizarre parce que ouais, c'était incroyable humainement et à la fois très dur. Et je pense qu'on a, mais ça nous a, ça, je pense que ça nous a, ça a un peu forgé toute notre vie, cette expérience à Madagascar.
Et puis de vivre ça en couple, en plus, bon, même si vous vous connaissez depuis toujours, ça a dû être un bon test.
On n'était pas, on se connaissait depuis toujours, mais pas en amoureux, quoi. Ouais. Et donc, ouais, là, c'était vie de couple. Et je pense que ça nous a forgé pour toujours parce que aujourd'hui, je pense que ça restera toujours en nous. Ce côté, Seb, donc, il avait fait une école de commerce et quand il a dit je vais partir 2 ans à Madagascar, tout le monde lui avait dit, ah, t'es malade, sur ton CV, c'est n'importe quoi, tu te tires une balle dans le pied, etc. Enfin, il y avait, les gens sont assez formatés dans ces écoles-là pour aller direct dans les grosses boîtes, faire de la finance, je sais pas quoi, enfin, bref. Et donc, lui a dit, non, moi, je pars 2 ans dans la Beauce avec ma femme, ce qui était un peu surprenant. Et moi, c'était aussi, quitter le journalisme, sachant que les places sont très, très, très chères, pour faire ça. Mais en fait, je pense qu'avec cette expérience, on a dit que la priorité c'était nous et puis surtout au retour on est arrivé donc 2 ans plus tard, moi j'étais enceinte de 3 mois, on avait en notre possession ce qu'on nous avait offert sur notre liste de mariage, à savoir un frigo, une machine, non même pas une machine à laver, des casseroles et bon, quelques fringues et voilà. Et Seb il est sorti de l'avion, une fois par semaine avant notre retour, il allait envoyer des mails pour avoir des entretiens. Et il avait des entretiens. Et moi, je me disais, c'est pas grave, je suis enceinte, mais je vais chercher des piges, etc. Et donc, il y avait ce côté un peu, yalla, on s'en fout. Ouais. Y a pas de plan. On attend un bébé, on n'a pas de taf, mais c'est pas grave, quoi. Et donc, ce truc-là, je pense, ça reste après, même quand tu as des enfants, quand tu t'installes et tout. Tu te dis que tout peut t'arriver, tu peux tout faire, et puis surtout si tu perds tout, c'est pas grave. Enfin, quand quelquefois on a pris des risques en changeant de job, etc. Et ben on se disait au pire, franchement, on a des parents qui peuvent nous accueillir, on aura un toit sur la tête. On avait vu ce qu'on a vu à Madagascar pendant 2 ans, c'était quand même des femmes qui bossent enceintes, qui bossent jusqu'à la veille de l'accouchement dans les chandries. On a vu des élèves qui mouraient de paludisme, de tétanos. On a vu, la vie est précaire, très très précaire. Et quand tu reviens en France, tu te dis non mais notre vie, enfin même si on est au chômage et qu'on est en fin de droit, franchement, on va chez les parents et on se refait et là c'est reparti. On se démerdera toujours. Ah. Ce truc là où en fait tu changes complètement d'échelle de.
Ouais, de valeur. Et ça n'a pas été trop difficile, justement, du coup, de revenir avec. Enfin, vous étiez quand même transformée par rapport à vos amis, votre entourage.
Ouais. Par rapport aux amis, non. Mais ça a été hyper dur. Seb, ça allait parce qu'il a vite trouvé du boulot comme commercial. C'est un secteur où il y a vachement d'offres. Enfin voilà, c'était pas. Ça allait.
Puis en plus, il est hyper bon, on peut le dire.
Mais en plus, c'est quelqu'un évidemment d'extraordinaire. Non, mais il a vite trouvé. Et moi, j'ai passé. Ça a été extrêmement dur pour moi. Parce que j'étais enceinte toute seule dans mon appart, je me suis pris dans la tronche que Alors pour moi en fait, en revenant, je me disais bah, de toute façon, quelqu'un qui a passé 2 ans dans la brousse dans un pays, en plus j'avais fait quelques petits articles, pas grand chose, mais j'avais fait des choses pour moi. Je suis rédacteur en chef, je vois arriver une fille qui me dit moi j'ai passé 2 ans dans la brousse, donc quand je vais dans un pays pauvre, je sais tout de suite ce qui se passe. Je me dis bah cool. Et puis elle a déjà fait 1 an de journalisme avant, super. Enfin pour moi c'était une caution. Enfin la fille qui n'a pas froid aux yeux et qui a un peu de plomb, tu vois, dans la tête, quoi. Et dans la cervelle, on dit.
Ouais.
Je ne sais pas quelle expression, mais bref, qui a vécu des choses qui font qu'elle a pris un peu de maturité sur certains sujets. Pas du tout. Je suis revenue voir mon rédacteur en chef de La Vie qui m'a dit « Alors, je vais te dire un truc, l'Afrique, tout le monde s'en fout. Et si tu avais fait 2 ans chez Télé Z, à mon avis, ça aurait été mieux pour toi. » Ah ouais, ouais. Donc, je me prends ça de la part de mon ancien red chef qui me connaissait et je me suis aperçue, tu vois, petit à petit je rencontrais des gens par le réseau machin et je me suis aperçue petit à petit, alors un, que j'étais enceinte, donc franchement ça se fait pas dans ce métier d'être enceinte si tôt, hein, non, et deux, qu'effectivement Madagascar tout le monde s'en fout. Et donc, j'ai fini par l'enlever de mon CV, cette expérience. Donc, je me présentais
fou,
juste en disant, voilà, j'ai fait 2 ans de journalisme à Rome et à Paris, me revoilà, et j'en parlais même plus.
C'est hallucinant.
Alors que j'avais ça au fond de moi, et donc ça, c'était assez perturbant. Et en plus, en fait, en réalité, j'étais chez moi à chercher du boulot, j'étais seule, et ça a été hyper, hyper dur, quoi.
Ouais.
Le retour a été hyper dur. Je passais mes journées seule à me prendre des portes dans la tronche parce que dans le journalisme, il n'y a pas de place. J'étais assez déprimée en fait. C'était dur, quoi.
Ouais.
À Paris, en plus, dans un petit appart, tu vois.
Ouais, oui, quand tu vis dans la nature.
Ouais. Alors, ouais. J'étais contente, tu vois. Enfin, c'était quand même génial de retrouver les magasins, les copains, etc. Mais les copains, ils bossaient tous en devant. Ouais. Ils avaient leur vie pro. Et donc, je calais des déj avec des copines. Mais voilà, tu sais ce que c'est à Paris. 2 heures avant, elle t'appelle en disant, je suis désolée, là, j'ai une réunion qui se cale et je peux pas. Et pour moi, c'était mon truc, mon soleil de la semaine. C'était se déjeuner avec cette copine et bim, ça tombe à l'eau. Donc, je me suis sentie hyper seule, hyper seule. Ouais. Et surtout, j'ai senti alors Madagascar, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'avaient manqué, donc c'était aussi un truc, il y avait vraiment un côté hyper dur dans cette expérience où j'avais envie de passer à autre chose. Mmh. Et en même temps, c'était là, c'était en moi, et je sentais qu'il fallait, pour avancer dans ce pays, il fallait oublier ça, quoi.
Ouais. Ouais, oublier qui tu es vraiment pour pouvoir...
Ce que tu as vécu, ouais. Ce que tu as vécu. Et en fait, et du coup, ouais, ça a disparu un peu. De nos discussions peu à peu. Alors il y a des choses qui sont restées chez nous. Donc il y a des choses qui sont vraiment ancrées en nous. Et quelquefois on se dit un petit mot malgache, etc. Mais on est retourné il y a 3 ans avec les enfants. Passé au mois d'août, c'était notre grand voyage avec les enfants. En leur disant, on va vous montrer ce qu'on a vécu. Et là tout nous est revenu dans la tête. Ouais. Et c'était dingue parce que je suis assez émue en disant. Et c'était dingue parce que ouais, je suis assez émue. Parce que, ouais, on se disait, mais ça fait partie de nous, quoi. Mmh. Enfin, en fait, en revoyant les gens, les odeurs, et on s'est dit, mais c'est nous, Madagascar, c'est aussi nous. Et on avait mis un couvercle sur tout ça, parce qu'on était un peu obligés, en fait. Tout le monde s'en foutait.
Ouais. Ouais, et puis en plus, accessoirement, vous avez quand même ramené un des plus beaux cadeaux du monde, à savoir votre fils aîné, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Made in Madagascar. Les Malgaches, ils disaient, tu as quel âge? Ils disaient, ben, j'ai 13 ans. Ouh, tu as été fier, Madagascar! Ils étaient hyper excités, tu es Malgache! C'était hyper drôle.
Et vous, vous imaginez revivre un jour là-bas?
Pourquoi pas? En fait, on se dit, pourquoi pas à la retraite, repartir sur un projet comme ça quand les enfants feront leurs études ou seront installés? Repartir, du coup, je pense que ce sera moins dur parce que t'as pas. Moi, j'avais quand même là-bas ce côté. Je rongeais un peu mon frein quand même. me dire, tu vois, j'avais la niaque, quoi, j'avais envie d'être journaliste, tu vois, j'avais quand même envie. Et mine de rien, bah, en fait, quand t'es dans un village en brousse, oui, tu découvres le monde, mais au bout d'un moment, t'es dans ton village en brousse. Donc, le monde, il est loin, quoi. Et t'es, en fait, très, très, très isolé. Donc, tu apprends énormément de choses sur la vie, mais tu découvres pas du tout le monde. Au final, voilà. Et donc, je rangeais un peu mon frein. Et donc, j'étais un peu frustrée quand même là-bas. Là où je pense que si tu refais cette expérience à 50 ans, c'est bon, t'as vécu tout ce que tu voulais vivre professionnellement, etc. Et tu le fais de manière beaucoup plus sereine, je pense. Et donc, on s'est dit que oui, on le referait, je sais pas dans quel pays, mais de partir aider les gens, je pense qu'on sera plus posé, plus serein en plus, et qu'on appréciera d'autant mieux l'expérience. Ouais.
Et du coup, donc, t'as ton premier enfant, finalement, t'arrives à trouver un job, des personnes qui te font confiance?
Je galérais pas mal. J'ai trouvé des petites piges chez le management, genre faisais un peu à la vie, des piges éco, je sais plus pour qui j'ai bossé, un peu Télérama, des trucs à droite à gauche, mais qui me, enfin, en gros, je vivais sur mon chômage, quoi. Ouais. Et sur le salaire de mon mari. Et c'était dur. Et j'ai rencontré, en fait, une copine, en fait, c'était plus ou moins une copine de ma sœur à qui ma sœur avait rendu service, mon beau-frère avait rendu service pour son mari. Bref, en gros, il nous en devait une, quoi. Parce qu'on avait rendu service à leur famille à un moment. Et elle était journaliste au magazine de la santé sur France 5. Et donc, on s'est rencontrés, et hyper sympa, etc. Une fille qui s'appelle Anne-Isabelle Tollé, qui est une super bonne journaliste, qui est aujourd'hui rédactrice en chef sur CNews. Et une fille qui a la niaque et qui a du culot et qui s'en est toujours sortie en faisant un peu des coups d'éclat et jamais dans le chemin dans le chemin classique, quoi. Et elle regardait mon CV et en fait elle me disait non mais bon effectivement il y a pas grand chose sur ton CV.
Il y avait Madagascar ou pas sur ce CV que tu lui as présenté?
Il y avait Madagascar. En fait si c'était toujours présent mais c'était vraiment une petite ligne et j'en parlais même pas, quoi. Il y avait écrit Contrariat de Solidarité Internationale Madagascar, je mettais même pas les dates, voilà. Pour montrer que j'avais un peu voyagé, quoi. Mais en gros entre ça et le voyage au Sénégal, pour les gens c'était la même chose. Elle me dit, il n'y a pas grand-chose sur ton CV, mais on peut peut-être essayer de faire un coup. T'es pas con, t'as du culot, tu présentes bien. Ok, on va essayer un truc. Elle me dit, au magazine de la santé, il y a des places à prendre. Donc, c'était le magazine, l'émission présentée par Michel Simès et Marina Carradencos, que j'avais découvert pendant mon congé mat. Elle m'a dit, en télé, il y a des bons salaires. Enfin, des salaires, elle me disait, en gros, je sais plus, c'était 2300 euros net. Donc, quand t'es jeune, hyper cool. J'ai dit, mais j'ai pas fait de télé. Elle m'a dit, on va se démerder, il y a des places à prendre et ils aiment former les gens. Et là, on a organisé un truc où, en fait, elle m'a dit, bon, commence par envoyer une lettre de motivation au rédacteur en chef, qui était Benoît Thévenet, et en fait, il ne connaît pas ils savent pas toute cette histoire, donc c'est très drôle. Et je l'ai toujours caché. Et c'est elle qui m'a rédigé la lettre de motivation au rédacteur en chef parce qu'elle le connaissait, elle savait qu'il était assez humain, etc. Elle savait ce qu'il aimait entendre sur son émission. Donc, j'ai repris la lettre de motivation et je lui ai envoyé, sachant que dans l'émission, il n'y avait pas que des journalistes de reporters télé, parce que c'est un métier complètement différent de la presse écrite. Ouais. Il y avait aussi des gens qui sont là pour caler les invités, etc. Et donc j'ai dit j'ai fait tel truc, j'ai parlé quand même de Madagascar parce qu'elle me disait c'est un mec qui est assez humain, qui aimera bien ça, assez humaniste et voilà, et j'ai une réponse, j'ai pas de réponse et en fait c'est elle qui me disait vas-y renvoie-la ta lettre machin, donc j'ai une première réponse et puis elle me dit bon maintenant on va passer à la vitesse supérieure, c'est le coup de fil pour le rencontrer. Parce que quelquefois, il y a des filles qui partent en vacances, en congé mat, et pourquoi pas, tu pourrais avoir une place. Et donc, elle était, il y a un jour, mais c'est flippant quand même, parce que moi, c'était ma seule porte de sortie pour être journaliste et retrouver un semblant de vie professionnelle. Et j'avais la niaque et une frustration, mais qui me bouffait, tu peux pas savoir, quoi. Parce que je sais pas pourquoi, depuis le début, j'ai un truc où faut que je réussisse, quoi. Faut que je réussisse, et puis pas qu'à moitié. Ouais. Et donc, un jour, elle m'appelle, elle me dit, OK, là, je suis à la sortie de son bureau, il est tout seul, il est 18h, tu appelles à tel numéro. Donc, le mec décroche, bonjour, je vous ai envoyé plein de lettres, machin et tout, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Le mec, non, désolé, on n'a pas de place, mais promis, s'il y a un truc qui se libère, je vous le dirai, etc. Et j'ai réessayé une autre fois où j'étais, en fait, en bas de l'immeuble. Je suis allée à Boulogne et j'ai appelé parce qu'elle m'a dit ouais c'est bon là, et donc je lui ai dit Bah, c'est encore moi, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je suis en bas, c'est trop bête, rencontrons-nous. Et on avait calculé avec Anne-Isabelle jusqu'à la couleur du petit impair que je mettrais pour que le mec me trouve sympathique et tout. Et donc on parle et on avait préparé ce truc-là où elle me disait des termes en télé. En gros, je lui ai dit, mais en fait, elle me dit, le problème, c'est que t'as rien en télé et que c'est un métier à part entière. Donc t'as qu'à dire que t'as bossé pour Reuters, l'agence de presse américaine, à Madagascar. Elle m'a dit, c'est invérifiable. C'est une banque d'images, on met pas son nom et tout, c'est invérifiable. Et donc j'ai rajouté cette ligne bidon sur mon CV. Journaliste pour Reuters à Madagascar. Je dis, bah voilà, pendant les événements, effectivement, il y avait une espèce de coup d'État pendant que j'y étais. Bref, donc j'ai fait ça. Et le mec, quand même un peu impressionné, ah ouais, super et tout. Bon, bah écoute, voilà, prochaine vacances, il y a une fille qui part pendant 15 jours. Tu peux la remplacer, tu caleras les invités. Et donc j'ai fait ça pendant 15 jours. Et puis je lui ai dit, donc ça s'est bien passé. Moi, j'avais Anne-Isabelle quand même en face de moi sur le bureau. Il y avait une équipe de 15 personnes. Ouais. On n'était pas censé se connaître, quoi. Donc c'était hyper bizarre. Et je tremblais un peu quand même tous les jours, enfin, mais vraiment l'imposture totale, mais n'empêche que je me démerdais. Et puis je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien commencer à faire du reportage, etc. Et il a dit, bon, ok, on teste. Et on a fait donc il m'a lancé sur un premier reportage. Là, j'ai prévenu le cadreur, je lui ai dit, je n'ai jamais rien fait, ce mec est devenu un pote, hein. Ouais. Et il a dit, ah ok, il est hyper bon, donc c'est lui qui a tout fait, etc. Et après, au montage, je me souviens, je suis arrivée, j'ai dit au monteur, mais je transpirais, j'avais jamais rien fait de ma vie, tout était faux, je savais pas du tout ce qu'était un montage télé, mais c'est un métier tellement différent de la télé. Anne-Isabelle est arrivée, elle a dit au monteur qui lui enlevait une, elle lui a dit, qu'il lui devait quelque chose, elle a dit, bon, c'est top secret, Dorothée n'a jamais fait de télé, tu te démerdes pour que ce reportage soit hyper bien. Et bref, de fil en aiguille, lui, le truc était bien, et j'ai eu comme ça une succession de reportages où je savais pas faire, où il y avait des filles dans la rédaction qui me voyaient arriver, j'avais pas fait d'école, alors qu'elles avaient fait des super belles écoles de journalisme, elles en avaient bavé, elles voyaient arriver cette fille qui savait pas faire grand chose, elles avaient les boules, vraiment, et donc elles me détestaient. Enfin bref, c'était un moment où donc petit à petit, je suis restée, on m'a proposé un CDD et je me souviens, c'était tellement stressant, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. J'ai des photos encore de cette époque où j'avais tout le temps un bandeau sur la tête. Le stress était tellement dingue, je me mettais tellement la pression parce que fallait que ça marche, c'était ma seule... j'avais réalisé que c'est ma seule issue pour devenir journaliste parce qu'en presse écrite, si j'avais pas fait l'ESJ ou le CFJ, ça n'allait pas marcher. Et encore, c'était même difficile pour ces gens-là. Donc, il fallait que ça marche. Et ça a marché. Et petit à petit, je me suis fait apprécier de l'équipe. J'y ai passé quelques années. Alors, toujours, la télé, c'est hyper précaire. Donc, c'est des successions de CDD. Ouais. Tu bosses pas pour une chaîne. Tu bosses pour une boîte de prod qui vend ses émissions à la chaîne. Donc, à chaque fin de CDD, on se demande si oui ou non on va te reprendre. Donc moi j'avais ce côté un peu pas du tout dans les clous, mais pour autant je faisais quand même des reportages qui tenaient la route. Je m'entendais hyper bien avec l'équipe, c'est des années vraiment où je me suis marrée et où je me suis fait des amis pour la vie.
Ça devient dur quand même au début quand tout le monde tu disais toutes les filles te détestaient.
Ouais, enfin il y avait un petit groupe de filles ouais qui pouvaient pas me saquer, mais après tu trouves toujours des alliés et puis je suis quand même, enfin voilà, je suis joviale, je suis pas du tout du genre à marcher sur les gens et tout, je suis très ambitieuse, mais par contre j'adore bosser en équipe, j'aime bien quand tout se passe bien, j'aime bien quand les autres autour de moi vont bien, donc je marche, ouais. J'aime pas marcher sur les gens, donc ils avaient pas grand chose à me reprocher à part putain elle fait chier, elle arrive et puis ça marche, quoi. Mais bon, à quel prix vraiment? En plus je laissais mon fils, j'avais un petit souci avec ce truc là de le côté séparation et abandon, je sais pas ce qu'il y a, mais ça a été très très dur de m'habituer au fait de laisser mon fils le matin.
Ouais. Il avait quel âge du coup à cette époque là
il avait un an.
D'accord.
Et donc c'était hyper dur, mais en même temps il y a un truc que j'ai aimé, c'est que le journalisme c'est très précaire, mais en même temps donc t'as des successions de CDD, donc t'as le droit de dire bah voilà, en janvier je bosse pas, je reprendrai qu'en février. Et donc je me suis réservée à chaque fois tous les ans le mois de janvier et le mois d'avril où je bossais pas et où j'étais avec lui, où j'avais la liberté, parce qu'il y a aussi ce côté-là où je ne supporte pas d'être enchaînée, d'avoir des obligations et d'avoir des chefs au-dessus de moi. Donc j'avais ce sentiment d'être libre par rapport à ma vie professionnelle. Et donc voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, mais j'avais aussi ce côté où tu sais jamais si tu vas être prise. C'est mon, ouais. Donc j'avais quand même cette liberté en ayant une succession de CDD et donc qui m'allait bien. Mais c'est aussi une émission où au bout d'un moment tu fais des reportages de 3 minutes. J'avais un peu fait le tour et j'avais d'autres ambitions. Je voulais faire du documentaire. Je voulais aller plus haut. Donc je commençais à avoir déjà une petite frustration, mais je faisais de l'antenne aussi. J'avais passé des petits castings en interne et je faisais des chroniques aux côtés de Michel Simès, ce qui était assez drôle. Voilà, enfin, pensant qu'il y a quelques mois avant, j'étais en train de désespérer dans mon appart et hop, là, je passais à la télé en direct. C'était rigolo, quoi.
Et donc là, du coup, tu as enchaîné les piges. Après, t'as bossé pour de la presse, t'as rebossé pour la presse écrite.
Non. J'ai fait quelques petits articles en parallèle, mais j'avais bien décidé de rester en télé parce que la presse écrite, c'était vraiment trop difficile.
D'accord.
Et hyper mal payé. Et tu bosses seule. Pour moi, c'était trop compliqué. J'avais vraiment abandonné cette idée. Par contre, ce que je voulais, c'était en journaliste télé, partir faire des reportages à travers le monde. Ça, c'est une bonne idée.
Donc ça, tu l'as fait pendant 10 ans ?
Ouais, à peu près.
À peu près,
avec des coupes, etc. À peu près.
Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ?
Eh bien, en fait, j'ai arrêté... comment ça s'est passé ? J'ai eu mon deuxième enfant 3 ans après le premier, toujours en étant journaliste au magazine de la santé, la plupart du temps. Et le troisième est arrivé 2 ans après. Ouais. À un moment où j'avais un peu fait le tour, j'avais d'autres envies et puis en fait la vie parisienne commençait à me débecter. J'avais toujours vécu, j'avais grandi dans la Manche, dans la nature, etc. Et pour moi, ça devenait un non-sens d'élever mes enfants là-dedans et ouais. Un non-sens de pas les voir se rouler dans l'herbe et ça. Mais vraiment, c'est devenu à la fin, ça me foutait tous les matins une boule dans l'estomac de me dire alors déjà ma vie pro commençait à moins m'épanouir. C'est quand même assez infantilisant ce côté dans le journalisme, le côté de devoir toujours être choisi. Chaque fois que tu te pointes quelque part, c'est on va te tester. Donc à 25 ans t'acceptes, à 35 t'en peux plus. Il y a aussi beaucoup de violence dans ce métier, donc si tu tombes sur des bonnes personnes, c'est chouette. Après, moi, j'étais en train de faire d'autres expériences dans la même boîte, mais pour faire des petits documentaires, etc., avec une rédactrice en chef qui me parlait comme à une merde et qui me faisait pleurer en salle de montage. Personne mérite ça. Non. Et donc, tu as affaire à des gens qui ne connaissent pas le management du tout, qui ont une pression au-dessus de la tête et qui ne savent pas la gérer. Et donc, toi, tu te prends ça en pleine face. Avec en plus très peu de reconnaissance. Enfin, il y avait ce côté vie pro qui devenait très compliqué pour moi. Et l'envie d'aller voir ailleurs et pas mal de violence. Et le côté vie perso où moi, élever ma famille, c'est en sentant l'odeur de l'herbe coupée, c'est en allant cueillir des fleurs. J'avais besoin de nature et d'une vie normale et pas d'un appart où on cherche une place pour se garer, où tout n'est que lutte et agressivité. Je ressentais vachement l'agressivité de la vie parisienne.
Ouais.
Et donc, quand mon troisième enfant est né, j'ai refait des projets dans le journalisme et tout, mais c'était toujours dans la douleur. Et là, mon mari s'est fait virer avec joie de là où il était. Et en fait, c'était notre seule porte de sortie où je lui ai dit... on s'est dit faut qu'on parte en province. Lui aussi, il en avait besoin parce que lui aussi avait grandi en province. Et on s'est dit c'est peut-être le moment de trouver autre chose. Donc il passait plein d'entretiens pour des postes à Paris. On était désespérés. En plus, on rêvait d'une maison et franchement avec nos revenus qui étaient pourtant bons, tout ce qu'on pouvait espérer c'était louer un petit appart jusqu'à la fin de nos jours. Chance, un jour il m'a appelé. J'étais sur un tournage pour un petit documentaire. C'était un petit documentaire sur les personnes de la rue et les personnes qui vivent dans la rue avec une association, et donc un sujet assez fort avec des rencontres assez fortes. Mais en fait j'avais une semaine pour tourner ce sujet, ce qui est très très peu. Non, j'avais même 5 jours. Et donc on s'était dit avec le cadreur, la première journée avec l'association, on suit les gens, on a juste la caméra à la main, mais surtout on filme pas. C'est trop violent, c'est très violent d'avoir une caméra et surtout pour des gens qui sont dans une telle difficulté, qui sont à terre, avoir une caméra dans le nez, non. Donc il fallait d'abord qu'on se présente, qu'on dise qui on était, etc. Et donc le deuxième jour, j'ai un coup de fil de la rédactrice en chef cinglée là, qui me dit alors qu'est-ce que t'as. Je lui dis bah écoute, on a déjà une petite interview d'une femme à l'extérieur de sa tente dans la rue. Elle dit mais je veux que t'ailles filmer dans la tente, je veux voir son quotidien quand elle se réveille. Je lui dis mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Elle me dit mais t'es journaliste ou t'es pas journaliste. Et là en fait c'était ben ouais, je suis journaliste, et si c'est ça le journalisme, et ben j'en veux plus quoi. Je veux plus ça. Et une heure après, mon mari m'appelle en me disant j'ai trouvé du boulot à Nantes, oui ou non? Et je lui ai dit mais oui, oui, un grand oui quoi, on se casse. Et je me souviens, je me suis retournée vers le cadreur avec un immense sourire, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as? Et je lui ai dit ben voilà, mon mari a trouvé du boulot à Nantes, et il m'a dit et je le connaissais pas, je connaissais que depuis deux jours, il m'a dit l'océan ça va te faire du bien. Et c'était exactement ça quoi.
Ah, génial. Ouais, tu te dis, c'était vraiment la journée.
Ah ouais, c'était la journée. Mais ça faisait un moment. Hein. Ça faisait, je pense, 3 ans qu'on en avait ras-le-bol de Paris. Ouais. Mais là, c'était vraiment la journée où il fallait avoir une nouvelle comme ça. Ouais. Et donc, bah, c'était l'occasion de. Enfin, l'occasion, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai quitté le journalisme un peu. Ça m'a forcé à quitter le journalisme parce que c'était tellement une passion. Ça faisait tellement partie de moi. Et c'était. En moi, enfin voilà, quand j'interviewais des gens qui me confiaient leur histoire, je me sentais tellement à ma place. Ouais. J'ai fait des sujets hyper forts, que ce soit sur, je sais pas, dans un service de réanimation de prématurés. Donc, t'as des histoires qui sont dingues avec des gens qui confient des trucs dingues auprès des agriculteurs. C'était toujours des sujets assez durs, hein, assez glauques, mais n'empêche assez forts. Sur le suicide des agriculteurs, t'étais en immersion pendant une semaine avec des gens qui vivent une autre vie que toi. Donc, c'était quand même un métier qui me faisait faire des rencontres dont j'ai besoin dans la vie. Ouais. Et donc, voilà, j'étais forcée de le quitter parce que tout se faisait trop dans la douleur. Et en fait, il y a qu'en partant de Paris que je pouvais le quitter, parce que sinon, j'aurais jamais fait le deuil, quoi. Et donc ouais. Là, Nantes, c'était parfait. Je partais.
Et là, à Nantes, tu t'es pas imaginé continuer dans une version forcément différente, parce que la presse locale, c'est pas. On sait qu'à Paris, c'est là où il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, non. Franchement, c'est dur à dire, mais en effet, si presse locale, tu vois, j'aurais bien aimé, par exemple, si on me disait, bah voilà. Tu fais une émission sur, je sais pas, le patrimoine de la région, etc. Tu rencontres des gens, j'aurais adoré, ouais. Mais ça se passe pas comme ça. Et en fait, en général, ces bonnes places-là en province, elles sont prises par des gens qu'en ont chié pendant 20 ans à Paris. Et qui, quand ils trouvent une place comme ça, je peux te dire qu'ils la lâchent plus, quoi. Ouais. Et puis, j'ai fait quelques démarches comme ça et en fait, j'ai vu que c'était pas possible. Et puis, j'avais pas envie d'un truc instable et tout. Donc, j'ai cherché du boulot. Et là, à Nantes, en fait, du coup, il y a eu les premiers mois d'installation à Nantes. On arrivait en milieu d'année. Là, on a eu l'impression d'avoir gagné au loto. On avait une maison. On était en province. On allait à la mer le week-end et tout. On arrivait en plein mois de novembre. Il faisait un temps de merde. On était hyper heureux. On a rencontré des gens hyper sympas dès le départ.
Vous connaissiez personne là-bas?
Si, il y avait deux couples. J'avais une copine de lycée qui était là-bas. Avec qui j'avais gardé le contact, et un couple de copains parisiens qui avaient déménagé pas longtemps avant et qui nous ont présenté quelques personnes. Mais c'est par l'école que j'ai, donc un couple de super bons copains, et ouais. Par l'école je suis tombée au bout d'un mois sur ce qui est devenu ma super pote à Nantes, gros coup de peau.
D'accord.
Qui m'a dit ah bah t'es nouvelle, faudrait qu'on se prenne un café un jour, trop gentil. Ouais. Et voilà, elle s'appelle Armelle et voilà.
Et on la salue.
Et on la salue bien. Et on la salue bien. Et on boira un verre avec elle très bientôt. Donc voilà. Donc en plus, voilà. En fait, tout était ouvert, quoi. C'était chouette. Et puis, donc, j'avais quand même envie de bosser. Et j'ai une copine qui m'a envoyé 3 mois après notre emménagement, même pas 2 mois, une annonce. Donc une copine journaliste par son école d'une start-up qui cherchait des journalistes. Une start-up nantaise qui allait faire des interviews de chercheurs. Le tout, c'était un média en ligne qui allait faire des interviews de chercheurs sur des sujets de fond. Et j'ai passé des entretiens. En fait, j'arrivais avec mon CV France Télévisions et tout. Ça s'est passé direct. J'ai négocié à mort. J'ai pu avoir un 4/5e, un super salaire. Enfin, vraiment, mais le bonheur, quoi. Et là, on commençait aussi des mois de bonheur où j'interviewais des gens hyper intéressants sur des sujets politiques de fond. Ce qui m'avait manqué aussi, c'était ça, dans le journalisme, au-delà de la précarité et de la violence, il y avait ce côté où on sentait que en télé, tout est tiré vers le bas et tes exigences de journaliste, au final, ben ça passe après l'audience. Et ben
si ah, c'est ça, c'est tiré vers le bas parce qu'il faut faire du truc à la sensation.
Ouais, exactement. Même dans des trucs assez sérieux, fallait quand même un peu de sensationnel. Et ouais. Ça, je commençais vraiment à en souffrir et j'avais envie de faire fonctionner mon cerveau, quoi.
C'est ce que disait Hortense Arend, je ne sais pas si tu la connais. Elle a été reporter de guerre à la BBC et puis ouais. Bon, ensuite, elle a été dégoûtée par le journalisme. Ouais. Et aujourd'hui, elle a créé Fleur d'ici, qui est entre guillemets le Interflora éco-responsable.
Oui, génial.
Et clairement, elle disait que voilà, elle adorait, enfin le journalisme, ça coulait dans ses veines, mais qu'elle a été dégoûtée en fait.
Ouais. Et bah c'était ça. J'étais dégoûtée. Et c'est horrible parce que c'est un métier passion avec des gens qui veulent faire et qui veulent rendre service et qui veulent rendre compte, mais le système fait que tu peux pas faire ton métier en fait. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, j'étais dans une petite start-up, mais avec des ambitions et tout se passait hyper bien. J'étais heureuse. C'était beaucoup moins prestigieux que de passer à la télé sur France Télé, que de faire des reportages qui sont vus par des millions de personnes. Mais intellectuellement, j'y m'y retrouvais et surtout, j'étais loin de cette violence que je supportais de moins en moins dans le journalisme et de cette précarité qui est assez violente en fait. Et donc voilà, 6 mois de bonheur jusqu'à ce que ça se passe très mal avec le fondateur de la start-up qui était en fait assez violent mais de manière encore plus insidieuse que dans le journalisme.
Okay.
Et en gros c'était il s'est agi au prud'homme de souffrance au travail et pas qu'avec moi, avec d'autres membres de l'équipe.
D'accord.
Et ça a été hyper dur parce que je suis restée 18 mois dans cette boîte, j'en suis partie au bout de 18 mois et donc avec prud'homme à la clé et avec ce truc de me dire mais c'est pas possible, j'ai jamais de chance quoi. Surtout je souffre toujours, c'est quoi mon problème? Et vraiment complètement dégoûtée avec ce truc de me dire non, je veux plus chercher de travail, c'est fini, je veux plus, je finis toujours en pleurant et en étant détruite.
Ouais.
Et j'en étais là 2 ans après mon arrivée à Nantes, donc ça a été je savais plus quoi faire. Ouais. et en fait à ce moment-là on avait trouvé une maison à acheter où fallait tout refaire et donc c'était bien parce que ça m'évitait de penser. J'allais tous les jours sur le chantier peindre etc et voilà, j'étais un peu au point mort en fait.
Et comment tu t'es reconstruite du coup?
Et ben en fait il y avait un truc qui me démangeait quand même depuis toujours, c'était la scène. J'avais jamais fait de théâtre, mais ça m'avait démangé. Donc quand j'étais petite, je voulais être actrice. Après, j'ai bien compris que je sais pas pourquoi je suis pas allée vers ça, mais c'était donc un sous-métier et pour moi les comédiens, je sais pas pourquoi j'avais cette image-là, c'était forcément la loose. C'était trop difficile et donc je suis pas allée vers ça. Après, je me souviens, en seconde, il y avait un cours de théâtre quand je suis arrivée à Tours. Je m'étais inscrite et le premier cours, fallait arriver et se présenter sur scène. Et je suis arrivée et j'ai pas pu ouvrir la bouche tellement j'étais intimidée. Je suis partie, je suis jamais revenue.
D'accord.
Voilà. Et puis, en fait, il y a un truc, c'est que au magazine de la santé, on faisait tous les ans une petite fête qu'on appelait la fête de Michel Simès, qui l'organisait parce qu'il adore faire la teuf. Et du coup je m'étais dit ben pourquoi pas, on s'était dit avec des copains tiens on peut faire des petites parodies de l'émission. Et une année on avait fait pour diffuser pendant la fête de Michel, on avait fait des petits sketchs etc, où là j'ai sorti des personnages, enfin j'étais devant la caméra et en fait j'imitais les gens qu'on interviewait régulièrement. Voilà, et j'étais bien, quoi. Je le savais que j'avais ce truc-là de savoir imiter les gens, etc. Mais une fois que ça s'est terminé, tout m'était mort de rire et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant « Mais fais-en ton métier. Mais en fait, t'es comédienne. » Il y a le producteur qui est venu me voir qui m'a dit mais écris des trucs et on fait des choses ensemble. Michel est venu me voir et m'a dit « Mais Dorothée, fais quelque chose, quoi. » Et donc, c'était... J'ai dit ouais non je sais pas, et je venais d'avoir mon deuxième, je me souviens cette soirée là j'étais épuisée entre le boulot et le deuxième qui faisait passer nuit et tout, et pour moi j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme, et je me disais d'instinct bah non je vais pas aller dans un truc encore plus galère quoi, je vais pas me lancer dans le spectacle, c'est n'importe quoi, mais n'empêche que j'avais ça en moi et on me disait t'as du talent quoi. Et donc quelques années plus tard je me retrouve c'est 5 ans plus tard à Nantes. J'avais ce truc-là, et puis de temps en temps, j'écrivais des sketchs. J'avais des trucs à sortir sur ce que j'avais vécu dans le journalisme, à la fois des choses drôles et à la fois des choses injustes, toute cette violence, cette précarité, ce côté infantilisant, et puis ce côté, donc la difficulté dont tu parlais tout à l'heure, d'être dégoûté, quoi, de vouloir bien faire son boulot et de jamais pouvoir le faire, et au final, tu diffuses un truc dont t'as honte. Donc j'avais besoin de sortir des choses, et donc j'ai commencé à écrire des sketchs, des situations, des trucs, donc en parallèle des travaux dans ma maison j'écrivais ça, et ça sortait tout seul. En un mois j'ai écrit un truc quoi, et je l'ai montré à une copine parisienne, une monteuse avec qui j'avais bossé sur France 5, et qui m'a dit mais dis donc ça m'a tout l'air d'un spectacle ça Dorothée. et je lui ai dit ouais, tu crois que je pourrais le faire et tout, et elle m'a dit mais grave on fait ça toutes les deux, on monte ça. Elle avait fait un petit truc amateur, elle avait monté une petite pièce amateur qu'elle avait montée dans un petit théâtre dans le 18e, et elle m'a dit bah écoute go quoi, on le travaille ensemble, on revoit le texte un peu et puis on y va. Et je me suis éclatée à écrire le truc et à le fignoler. J'ai appelé aussi un mec à Nantes, donc je m'étais dit ben un jour je le montrerai, voilà, je louerai une petite salle, de cette petite salle pour le montrer dans une famille et des amis. Ouais. Puis j'ai appelé aussi quand même, comme j'y connaissais rien du tout, j'ai appelé un mec à Nantes, un metteur en scène pour des cours particuliers. Mais le moment de solitude, le mec s'appelait Florent. Je dis bonjour, je voudrais vous montrer un spectacle que j'ai fait. Et donc le mec arrive un jour à 14h chez moi, et dans mon salon, toute seule, je lui déroule mon spectacle. Avec le mec qui avait l'air un peu en digestion, tu sais, un peu en train de dormir, et moi qui faisais la conne, des personnages et tout, mais intérieurement, mais j'étais 6 pieds sous terre, quoi. Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce que je fous là? Mais n'empêche qu'à la fin, donc, et le truc durait 1 heure, hein, quand même. Mais n'empêche qu'à la fin, le mec m'a donné, est vraiment bon. Et il m'a donné des conseils. Il m'a dit bah voilà, dans ton texte ce qui manque c'est ça, tel personnage faut peut-être faire ci faire ça. Il est revenu une ou deux fois en me disant ah ouais c'est mieux et tout, mais le mec était vraiment dubitatif quoi. Un peu ce côté la pauvre meuf qui croit qu'elle va monter sur scène avec ça, mais bref, il m'a donné quelques filons, et puis on a retravaillé avec ma copine Nathalie, et puis bah voilà, j'ai réservé le truc pour une soirée en juin au théâtre, à l'Alambic Théâtre, je crois qu'il s'appelle, dans le 18e, ce tout petit théâtre, où j'ai décidé de convoquer famille et amis, ouais, avec ma copine Nathalie, qui était là en renfort pour la mise en scène, pour les costumes, pour les trucs. Donc voilà, j'étais contente et en même temps toute intimidée.
Ouais, on imagine que tu avais le trac.
Ah, mais en fait, la veille, je me suis dit, mais t'es complètement con. Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est n'importe quoi. Et le truc, il y avait, je crois qu'il y avait 65 places ou 80 places. 80 places. Tout était réservé. Et donc, j'ai réservé une autre soirée. Et donc, j'étais jamais montée sur scène, et je m'apprêtais à raconter ma life pendant une heure et quart à des gens, et sans compter qu'il y avait aussi, tu vois, des journalistes, parce que j'avais mis ça sur Facebook, j'ai dit hello, j'avais fait une petite affiche avec une copine. Le sujet, ça s'appelait, le titre du spectacle, c'était Albert Londres, les pigeons et moi. Donc, Albert Londres, du nom de ce journaliste mythique, du début du 20e siècle, qui a dénoncé le bagne à Cayenne, qui a dénoncé plein de choses dans des livres, et vraiment le journalisme comme on voudrait tous le pratiquer. D'ailleurs, il y a un prix Albert Londres qui est le prix qui récompense les meilleurs journalistes français chaque année. Et donc Albert Londres, c'était vraiment le truc que je vise. Les pigeons, c'était pourquoi les pigeons? Ah oui, parce que les pigistes, j'avais dit on est des pigeons en fait. Pigistes et pigeons, voilà, c'est la même chose. Et moi, ma vie, comment je vis tout ça. Donc Albert Londres, les pigeons et moi, venez voir ce spectacle. J'avais mis sur Facebook. Ça a été en fait, j'avais mis sur Facebook, sur mon Facebook perso avec. voilà, tous mes amis sont été un peu dans le monde du journalisme et j'avais dit, bah voilà, pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'en peux plus de ce métier, c'est que machin et tout. Donc tout est dans ce spectacle. J'avais fait tout un petit truc en disant pourquoi j'ai fait ça, et ça a été partagé un nombre de fois. En fait, parce que bah, tous les journalistes vivaient ça, cette frustration, ouais. Et donc il y avait quelqu'un qui allait ouvrir sa gueule sur le sujet. Et donc, voilà, la salle était pleine, quoi. D'attachés de presse, de journalistes, de copains. Il y avait aussi ma mère, le truc super angoissant. T'as ta mère dans la salle, ton père. Bonjour, c'est moi. Et en fait, je ne suis pas celle que vous pensiez. Et donc, voilà, la veille, j'étais là, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et donc, j'ai fait mon spectacle. Voilà, le rideau s'est ouvert, la lumière, j'avais tous ces gens devant moi. Et en fait, je sais pas, c'est passé. Alors, j'étais stressée parce que j'avais pas assez répété, je savais pas qu'il fallait à ce point répéter. Mais n'empêche que c'est passé, tout le monde était mort de rire. Il y avait un truc qui s'est passé. Et à la fin, quand ça applaudit, mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Ils se sont tous levés. Et en fait, il y avait plein de gens que j'aimais. Et il y avait un peu ce côté où, ben, en fait, c'est moi, quoi, la journaliste. Non, en fait, je suis un peu une artiste, quoi. C'est ça que j'avais au fond du cœur. J'avais ça et paf, je voulais livrer. Et c'était dingue, quoi. J'avais fait une dizaine de personnages, tous plus cons les uns que les autres. Et tout le monde était debout et ça a été dingue. Vraiment dingue.
C'est génial. Et donc, du coup, t'avais reloué pour un deuxième jour?
Ouais, un deuxième soir. Et en fait, du coup, il y avait des copains qui étaient là. Ouais, des gens d'un peu partout. C'est marrant. Il y a quand même des gens dont je me disais, j'étais surprise qu'ils soient là, quoi. Des gens qui sont un peu dans un autre monde à Paris, des copains qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'ils étaient un peu dans des sphères qui n'étaient pas les nôtres.
Ouais.
Et en fait, ils sont venus, quoi, voir. La petite chichi, parce que c'était mon surnom, ça a toujours été mon surnom, bah faire son spectacle, et c'était rigolo. Ils viennent au fin fond du 18e, qui fréquentent d'autres endroits d'habitude, pour voir ce spectacle, et j'étais assez touchée.
Ouais.
Et donc, deuxième soir, en fait, à la sortie, donc il y a un copain qui me dit « Ah, j'ai un copain producteur, j'ai eu parlé de toi », je dis « Oh, oui, d'accord, ok, c'était pas du tout l'idée ». Et en fait, il m'a rappelé, ouais, il m'a renvoyé un texto le lendemain en disant « Oui, ce soir, j'ai mon pote producteur, est-ce que tu peux lui prendre une place ?» Je lui dis « Bah non, il n'y a pas de place, désolé. » Désolé, il n'y a pas de place pour un producteur en plus, voilà. Et du coup, je fais mon spectacle le deuxième soir, ça s'est moins bien passé, j'étais épuisée. En fait, c'est tellement épuisant de faire ça quand tu connais... Et la deuxième, on dit toujours, les artistes disent toujours, la première, t'es toujours en état de grâce, et la deuxième, c'est la plus dure, tu te plantes. Et oui, je me suis plantée de texte. Il y a eu un moment, heureusement que j'avais fait du montage dans ma vie, parce que paf, il y a un chapitre que j'ai mis avant l'autre, j'ai raccroché les wagons, mais tout ça sur scène en direct devant des gens et devant mon ancien rédac chef que je voyais et qui faisait partie d'une grosse partie du spectacle où quand même je le tournais en dérision. Enfin, ouf, assez stressant quand même. Et je sors de là. En fait, je me suis assise au café et je pouvais plus me lever en fait. Ma pote m'a dit tu veux que j'aille te chercher un verre. J'étais tellement épuisée que je pouvais plus me lever. C'était très bizarre. Mais bon, toujours ces deux soirs à la sortie, il y avait la famille, les potes, et on avait l'impression un peu d'être à notre mariage où tu vois plein de gens que t'aimes qui sont venus pour toi voir ce que t'as fait. Et donc le deuxième soir, il y avait un peu tout France 5 qui était là, et c'était compliqué parce qu'il y avait des gens qui étaient quand même très tournés en dérision à mon spectacle. Et donc deuxième spectacle, très bien, je l'ai fait, c'est cool, voilà.
Il n'y a personne qui s'est offusqué de...
Non, pas du tout, parce que c'était jamais méchant et c'était toujours tourné un peu drôle. Il n'y avait aucune méchanceté. C'était vraiment de la... Je tournais tout en dérision et je grossissais le trait des personnages qui en riaient aussi.
Ça devenait des caricatures plus...
Ouais, il n'y a que la connasse qui m'a... La connasse de la chef qui m'avait vraiment fait pleurer. Elle avait aussi tout un chapitre où... Et elle est venue voir mon spectacle après, mais plus tard. Bref, c'était un peu compliqué. Et donc, les gens ne s'offusquaient pas et juste ils me disaient « Chapeau de l'avoir fait, c'est dingue et tout. » Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que Par définition, en fait, tu vois, nous, en tant que journalistes, on faisait des articles sur la précarité dans certains métiers qui sont hyper précaires et tout. Sauf que notre métier à nous est hyper précaire, mais personne n'en parle.
Ouais.
Personne, parce que Télérama, ils faisaient plein de sujets sur la précarité, mais eux, ils employaient des pigistes qui payent au lance-pierre et qui traitent comme de la merde, mais ils peuvent pas en parler de ça. Bah non, puisqu'ils le font. En fait, ça n'apparaissait nulle part. Donc, la seule manière d'en parler, c'était d'aller sur scène, quoi. Et donc, tout le monde disait, bah, ça fait du bien quand même. Et bref, et le lendemain, je dormais chez une copine parce que donc, toute ma famille était à Nantes. Et puis j'ai un message, bonjour, je m'appelle Romane, je suis producteur. J'étais dans la salle hier soir, c'est hyper chouette ce que vous avez fait. J'aimerais qu'on en parle, rappelez-moi. Et puis je devais accompagner ma copine chez le médecin pour un truc, pour une radio, je sais plus. Bref, je le rappelle que le lendemain, quoi, où je lui envoie un texto, bonjour, merci pour votre message, je vous rappelle demain, mais limite j'ai oublié de le rappeler, quoi. Et le mec, du coup, je le rappelle le lendemain et il me dit, bah voilà, je voulais savoir si tu voulais en faire ton métier. Et je dis, bon, alors là, aucune idée. Et le mec me dit, ah bah ça, on m'a jamais dit ça. Parce qu'en gros, dans le spectacle, si t'es un producteur dans la salle, déjà, t'es contente. Et le mec, il veut travailler avec toi. Il dit, ah oui, au fait, c'était la première fois que je payais ma place pour aller à un spectacle. Je dis, ah bon, t'as trouvé une place? Moi, je n'avais pas réservé. Il me dit, bah non. Je lui ai dit, bah non, j'avais prévenu qu'il n'y avait pas de place pour toi. Et le mec, il était mort de rire. Il disait, bah alors ça, c'est la première fois qu'on me le fait, quoi. Et donc je lui ai dit, bah quoi, en faire mon métier? Oh ben, franchement, j'avais rien d'autre à faire. J'avais peur de chercher du travail. J'avais encore 2 ans de chômage devant moi ou 1 an et demi de droit. Et je dis, bah ouais, allons-y, pourquoi pas. Et donc voilà, a commencé un truc. En plus, c'était un producteur qui avait quand même bien pignon sur rue, qui finançait des gros spectacles à Paris. Et c'était parti. Donc lui, il avait des parts au théâtre de 10h à Paris, à Pigalle. Ouais. Il m'a dit, ben voilà, on a qu'à... Et d'abord, il m'a dit, on refait une présentation. Donc là, on était en juin. On refait une représentation en septembre. J'ai besoin d'avoir l'avis de quelques professionnels dans la salle, voilà, et je refais une présentation en septembre, et là il y avait la directrice du Point Virgule, le directeur du théâtre de la Comédie de Paris, il y avait des humoristes et tout, mais oh, ils avaient un public de ma boule dans ma petite salle, quoi. Et on sort de là. Et donc, ça, c'est hyper... Le premier soir, je l'avais loué pour 2 soirs encore. Premier soir, ça s'est super bien passé. Les mecs sont sortis en disant « Waouh !» Au Point Virgule, il a dit « Ok, je la prends 6 soirs par semaine, pas de problème et tout. » Donc, Point Virgule, gros tremplin d'humoriste à Paris.
Ouais.
Et en fait, bah, j'habitais à Nantes. Et puis non, finalement, il y a les mecs du théâtre de 10h qui étaient là « Ouais, on la prend. » Et bref, donc il a été décidé que je commencerai au théâtre de 10h mes représentations 1 ou 2 par semaine, parce que donc à Nantes. Et en fait, le mec, le producteur, était un copain de copain, donc il comprenait que je pouvais pas laisser ma famille 5 soirs par semaine, j'en avais aucune envie, et qu'on allait commencer par 1 soir par semaine pour voir. Et là, 6 mois de spectacle au théâtre de 10 heures où je m'améliorais, en fait, à force, où le truc était changé et tout, et avec des salles quand même assez pleines, parce que ça tournait. Bah, déjà, je faisais 15 soirs par semaine, et en fait, je parlais d'un sujet dont personne ne parlait, la précarité dans le journalisme.
Ouais.
Et ce qui était dingue, c'est que sont venus dans ma salle des gens que j'aurais adoré rencontrer, tu vois, des rédacteurs-chefs du Parisien, des gens de France Inter, etc., que j'aurais jamais pu rencontrer, mais qui tweetaient derrière, mais allez la voir, enfin on en parle, et qu'est-ce qu'on rit. Et en fait, c'était dingue, et en fait, ça m'a vachement réparé. Parce que j'avais quand même, après toutes ces années de journalisme, plus, où on a un peu enfoncé le clou dans cette start-up nantaise à la fin, l'impression d'être une merde, quoi. Et que j'avais pas de chance et que je pouvais pas supporter le monde du travail. Donc ça m'a vraiment réparé. Et des journalistes à la fin qui me disaient, mais c'est dingue, ça me fait du bien t'entendre, parce que j'avais l'impression d'être une merde, et en fait je m'aperçois que c'est pour tout le monde pareil, mais que personne n'en parle trop, parce que je pense que c'est un peu comme dans le showbiz, faut toujours montrer que ça marche pour toi, ouais, que t'as des plans et tout, et en fait au fond c'est dur pour tout le monde, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, et c'est marrant, j'ai eu une photo en pleine page d'un Télérama. J'avais fait mon spectacle, a fait la une sur lesinrocks.com.
Génial, ouais.
Et, Et donc, c'est dingue de voir ça. Après, c'était le spectacle était bon, je pense, mais c'était aussi surtout le sujet, parce qu'il y avait encore des imperfections dans mon spectacle. C'était le sujet, quoi. C'est ouais. Le journaliste qui dénonce son métier, qui parle vraiment de son métier. Et c'était la première fois qu'on en parlait, donc c'était assez dingue. Ouais. Et surtout, moi, sur scène, je me sentais complètement vivante. Enfin, c'était... Il y avait un truc qui sortait, et puis j'améliorais mon spectacle, ça sortait tout seul et tout, et en croisant d'autres artistes, le côté, enfin, écrire, en fait, ça sort pas tout seul, donc j'avais cette chance-là, ça sortait, en fait, il y avait des années de frustration qui sortaient, et donc c'était un peu, entre guillemets, facile pour moi à ce moment-là. Et puis après, une fois que tous les gens du réseau machin et tout avaient vu le spectacle, ouais. Et ben on est arrivé un peu dans le dur, tu vois, où faut remplir ta salle au bout de 6 mois, etc. Et où j'ai vécu tout ce que vivent ceux qui sont en one woman show. J'entendais l'autre fois Omar et Fred qui disaient mais heureusement qu'on était deux, parce que les soirs où t'as 3 personnes dont un qui regarde son portable, c'est l'enfer. Donc moi j'ai jamais eu 3 personnes parce qu'on arrivait un peu à rameuter du monde et tout, mais quand t'as 10 personnes devant toi et que t'en as un qui s'endort, putain, autant t'as des soirs où tu sors de là, mais t'es au sommet, tu clignes de l'œil, tout le monde est mort de rire, tu sens que tu tiens ta salle, c'est une sensation, mais incroyable, c'est un shoot en fait, un shoot incroyable, et c'est là où je comprends que les artistes deviennent complètement zinzin, c'est qu'une fois que t'as vécu ça, t'as l'impression d'être le roi du monde, et après la vie quotidienne, elle est un peu plate quoi. Ouais. Et pourtant, je parle pas du zénith, je parle d'une petite salle. Il y avait 140 places au théâtre de 10 heures.
D'accord.
Et bref, des moments assez durs. Et puis après, donc, on est rentré dans le dur. Et où là, et puis j'ai tout d'un coup, mon producteur, j'avais plus du tout son appui. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'ai vu le côté assez violent du showbiz et j'ai commencé à croiser plein de connards, etc. Et donc, je retombais dans le même truc. Et j'avais pas envie quoi. Et je me disais non, je veux pas. Et donc j'ai quand même fait. Ça a été prolongé 18 mois quand même ce spectacle. Ouais. Le dernier soir, non l'avant-dernier soir, c'était le soir de mes 40 ans, ouais. où j'ai une copine qui avait convoqué tous mes bons potes parisiens dans la salle. Et en fait, c'était par surprise. Et je suis arrivée sur scène et j'ai vu que des têtes que j'aimais. Et là, ça a été. Et je me suis dit, c'est la dernière fois où je vais m'éclater. Et je me suis éclatée. J'ai été bonne, quoi. J'avais tous les gens que j'aimais. Et en fait, je pense qu'au fond, j'ai fait ce spectacle, je pense que c'est pour eux, quoi, pour m'éclater devant des gens que j'aimais. Parce qu'en parlant avec d'autres, parce qu'en fait, j'étais un peu démarchée. On me disait, pour des chroniques sur Nova, pour des trucs. En fait, j'avais pas envie de. Il y a un truc dans l'One qui m'a empêché de progresser, c'est que j'avais pas envie de m'exposer parce que je connaissais ça en télé. Et puis, j'avais pas ce. En fait, les artistes qui sont sur scène, ils ont tous cette faille. Une énorme faille affective qui font qu'ils ont besoin d'être aimés tout le temps. Moi, j'avais ma famille, j'étais assez stable, etc. J'avais besoin de m'exprimer, mais j'avais pas besoin d'être mise en avant.
Ouais.
Et donc, quand il a été question d'aller chez Hanouna, d'aller dans des émissions racoleuses comme ça pour se faire connaître, de faire des blagues à la télé et tout, moi, c'était pas mon truc, quoi. J'en avais pas envie. Et donc, ça voulait dire que fallait que ça s'arrête parce que c'est le passage obligé si tu veux commencer à te faire connaître, quoi.
Ouais. Ouais, c'est super que t'aies mis les propres limites pour ton propre bien-être, en fait.
Ouais, carrément. Et en fait, il y a le metteur en scène de François-Xavier de Maison qui est venu dans ma salle et qui m'a fait une proposition. Mais il m'a dit, la question, c'est est-ce que t'as envie de faire un zénith ou pas? Je dis, bien sûr. Mais il m'a dit, la question aussi, la deuxième question, c'est est-ce que t'es prête à divorcer pour ce métier ou pas? Et là, j'ai dit non. Et il m'a dit, parce que, les artistes que j'ai suivis, ça a foutu leur famille en l'air. Donc, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à tout ou pas? Et j'ai dit non. Et en fait, la plupart des artistes sont quand même prêts à tout.
Ouais.
Donc, il me disait, parce que maintenant, à partir de maintenant, ça va être 5 soirs par semaine à Paris. Il faut te faire connaître. Il faut que ton spectacle s'améliore. On peut faire ça, 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 ça. Il y a des trucs de ma boule à faire sur ce sujet, mais il faut que tu sois prête. Et j'étais pas.
Ouais. Et ton mari, du coup, comment il a vécu? Alors, moi, je le connaissais à cette époque-là et je me rappelle le voir dire, il faut aller voir ma femme en spectacle.
Ouais,
il était hyper fier.
Il était trop sympa. Ouais.
Comment il a vécu justement le doute avant d'y aller, le up au début et puis, et puis la descente après?
Il a été, il m'a vachement accompagné. C'était vraiment, il a été adorable parce que il me connaît par cœur et il sait que j'avais ça au fond de moi et que s'il fallait que je sois une artiste, ça faisait quand même pas mal d'années que je le gonflais avec le côté, mais moi, en fait, je crois que j'aurais dû être comédienne. Oui, c'est ça. Et puis là, en fait, il voyait que ça marchait. Ouais. Et donc, Voilà, le premier soir où j'ai fait mon spectacle, il était complètement stressé pour moi. Parce que la fille, elle n'en a jamais fait. Elle va parler 1h15 de sa vie devant 80 personnes, n'importe quoi. Mais donc, il était hyper stressé, hyper soulagé à la fin. Il m'a toujours vachement accompagnée. Il était hyper fier de moi. Il était à fond pour remplir ma salle les moments où c'était un peu plus dur. Donc, il m'a vachement accompagnée. Et au moment où j'ai eu cette proposition de passer le step au-dessus avec un bon metteur en scène, il m'a dit, mais tu sais, s'il faut, on repartira à Paris, quoi. Ah. Et en fait, donc voilà, il était prêt à, parce qu'il savait que j'en avais chié toute ma vie professionnelle et que lui, il avait quand même vachement progressé. Moi, je m'étais quand même pas mal, j'ai toujours jonglé entre vie pro, vie perso et je me suis toujours vachement occupée des enfants, où lui, il était assez tranquille pour tracer sa route professionnellement et ça marchait bien pour lui. Donc là, c'était, peut-être que maintenant, c'est à moi de.
Ah, c'est ton la moment place. À toi.
Ouais, c'est ton moment à toi. Mais je voyais ce que c'était. Je voyais les comédiens et tout. Et j'ai rencontré pas mal de zinzins égocentrés. Et j'avais pas envie de devenir comme eux. Et mais ils sont pas tous comme ça, bien sûr. J'ai aussi rencontré des gens géniaux, vraiment hyper généreux. Mais le one, franchement, c'est compliqué de garder son équilibre en faisant du one woman show. Ouais. Et donc non, j'avais pas envie de casser tout notre bonheur en revenant à Paris. Donc ça a été j'arrête.
Ouais.
Et en fait, le soir de ma dernière, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu réserves un resto, et puis je te préviens, je me bourre la gueule. parce que c'était ça m'avait vraiment pris aux tripes. C'était lâcher une partie de moi qui m'avait éclatée, dire, enfin voilà, arrêter le spectacle, très 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 compliqué quand même. Et j'ai pleuré, j'ai bu.
Tu savais pas ce que tu voulais faire derrière et c'était la deuxième fois que ça t'arrivait en très longtemps en fait.
Ouais, complètement. Et puis j'arrivais en fin de droit, on avait une baraque à rembourser, fallait quand même que je gagne ma vie quoi, parce que là ce qui est dingue aussi dans le spectacle, c'est que j'ai pas gagné d'argent mais j'en ai pas perdu parce que j'avais un producteur. Et d'habitude les gens qui se lancent, en fait ils perdent de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont un boulot à côté. Pour financer leur début de carrière, c'est hallucinant quoi.
Parce que ça coûte combien de louer une salle
Je sais plus combien c'était. C'est pas du tout inabordable, tu vois. Moi, on avait gagné un peu d'argent avec ma copine Nathalie. On avait partagé la première salle. On avait fait payer 10 € l'entrée à tout le monde.
Ouais.
Et on avait gagné, c'était peut-être 1 000 € la soirée, je crois, un truc comme ça. Donc quand tu fais payer les gens, ça va, tu vois.
Ouais, faut juste avancer les fonds pour la location de la salle, mais après tu peux. Je te pose la question parce que je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage, et il y a sûrement des personnes qui vont nous écouter, qui sont dans ce cas-là, qui ont un talent qui est caché ou pas finalement. Ouais. Et j'en parlais l'autre jour avec Augustin, le fondateur de Michel et Augustin, qui aujourd'hui donc se dit en jachère depuis qu'il a quitté l'aventure. Ouais. Et en fait dans sa jachère, il veut faire du bien autour de lui.
D'accord.
Et notamment, il a un de ses copains qui a beaucoup beaucoup de talent sur de faire rire et compagnie. Et en fait, il s'est dit bon, il faut lui donner un petit coup de pied, un petit coup de pied ou un petit coup de pouce, c'est peut-être la même chose d'ailleurs.
Ouais.
Et il a, avec l'accord de la femme de ses très bonnes amies, il lui a réservé une salle.
Ah, c'est
Il lui a dit dans 6 mois, cette salle, elle est réservée, elle est pour toi.
Ah, c'est super, c'est un super cadeau.
Ouais, et j'ai en fait je pense moi aussi à un de mes amis qui est très très doué. Enfin, tu vois, c'était le témoin de mon mari à notre mariage. Il a fait un discours pour le civil et pour le religieux, et tout le monde a été vraiment scotché. Nous on savait qu'il était doué, mais ceux qui le connaissaient pas sont tous venus le voir et nous voir en disant mais c'est qui ce gars quoi.
Ouais.
Et ouais, si tu te dis, en effet, si c'est pas si compliqué que ça...
Non, c'est pas compliqué. En fait, c'est très bizarre parce que je crois qu'on se met des barrières et il y en a pas, en fait. Alors oui, c'est compliqué. Alors pour la scène, c'est compliqué. Mais en fait, que ce soit la scène ou tu vois, si tu as des talents de peintre ou tu fais du dessin, ou j'en sais rien, et tu vois que tu mets un couvercle là-dessus depuis des années... Ouais. Bah en fait, je sais pas pourquoi il y a une barrière qu'on se met. Et pourquoi je dis pas que tiens, maintenant je vais dessiner tous les soirs. Pourquoi est-ce que je vais pas dire à mon boss, en fait maintenant je vais bosser à 90% pour faire autre chose et puis pour prendre des cours. Pourquoi est-ce que je réserve pas ma salle et en fait il y a eu un moment j'ai failli pas le faire ce spectacle parce que j'avais un peu la trouille et parce que c'était confortable de pas changer mon habitude. Mais n'empêche qu'aujourd'hui l'avoir fait, mais ça m'a, je suis devenue qui je suis quoi. Et en fait, c'était pas si compliqué. Après, pour ce genre de projet, il faut aussi avoir les bonnes conditions, quoi. Parce que il suffit pas de dire ouais, vas-y, fais-le. Moi, j'avais un mari qui me soutenait, j'avais des droits, tu vois, j'avais encore mon chômage. Ouais. Et si j'avais été, donc j'avais une situation confortable. Si j'avais été maman célibataire, je l'aurais jamais fait. Mm-hmm. J'avais aussi cette chance d'avoir les bonnes conditions. Et en fait. Il y a un truc qui m'énerve parfois, c'est l'injonction à réaliser ses rêves. T'es là, ouais, t'es gentil, mais il faut aussi quand même avoir les conditions. Moi, j'ai eu la chance de les avoir. Donc
ouais, c'est savoir se dire, c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est se dire que finalement, les rêves, ouais. On peut toujours. Il y a un moment dans notre vie, on pourra les réaliser. C'est peut-être pas tout de suite maintenant parce que t'as pas. C'est pas le moment de changer de boulot parce que tu viens d'acheter une maison et qu'en fait, t'arrives encore à tenir dans ce boulot-là. Ouais. C'est savoir quel est le bon. Enfin. Même s'il n'y a jamais vraiment de bons moments, parce qu'on a toujours des peurs, hein, on est humain, ouais. C'est se dire, ok, est-ce que là, c'est, est-ce que je me mets vraiment dans la merde ou pas, en fait?
Ouais, je me mets dans la merde. Et puis après, il y a peut-être des entre-deux qui font que ça, c'est une première marche. Là, récemment, ouais. Je discutais avec un copain qui est dans le marketing, je ne sais pas ce qu'il fout là-dedans, dans une grosse boîte ou je ne sais pas ce qu'il fout là-dedans. Mais en fait, il dessine hyper bien. Et ouais. Il me dit, ça m'a marqué ton histoire. Et du coup, j'ai recommencé à dessiner le soir au lieu de regarder la télé. Puis maintenant, j'ai un petit compte Instagram où je dessine son truc. Génial, juste, ouais. Le mec est super doué. Mais n'empêche que ça a apporté de la couleur vraiment dans sa vie. Ouais. Et il fait ça en plus de son boulot. Quoi. Et il a des enfants. Mais juste, il a passé le cap de dire, je vais reprendre mon crayon, quoi.
C'est ça. Mais ça me fait penser aussi, j'ai une de mes très bonnes amies qui, en gros, un jour, on se faisait un week-end fille et tout, mais c'était il y a 10 ans, un truc comme ça. Et elle avait une planche, un carnet de crayons. Enfin, je savais même pas qu'elle dessinait, en fait. Ouais. Et elle m'a dit, j'aimais bien dessiner quand j'étais petite. Et puis, je m'entraîne. Ouais. Et tous les soirs, à chaque pause déj, elle bossait son trait de crayon. Ouais. Et en fait, elle a fait un compte Insta. Elle a fait un site et tout. Elle avait des clients en off, à côté de son job, en fait. Et bon, entre-temps, elle est devenue maman, donc un peu moins de temps. Et là, sur son compte Insta, elle vend des cartes là de France, de villes de France. Et elle a relancé le truc. Et tu dis, elle a toujours un job, elle est salariée, mais c'est son... Ouais. Sa bouffée d'air, c'est son truc. Ouais.
Et puis quand il s'agit de choses artistiques, mine de rien, quand même, c'est ce que tu es, quoi. Enfin, tu vois, t'as une âme d'artiste. Si tu mets un couvercle trop dessus, pour moi, je pense que tu...
T'étouffes,
ouais. T'es jamais ce que tu es, quoi, au fond.
Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai complètement une âme d'artiste, hein, c'est dans mes veines et j'en ai besoin. Et en fait, j'ai fait un job à Paris où je suis restée un an et demi et j'étais sous pression, sous pression qu'on me mettait, sous pression que je me mettais. Et c'était le job pour lequel on a quitté Marseille pour aller à Paris. Et quand j'étais, avant d'emménager à Paris, au moment d'emménager à Paris, j'avais sorti ma machine à coudre, j'avais fait des rideaux, j'avais fait plein de trucs et tout. Bon, ma machine à coudre n'avait pas quitté le placard pendant un an et demi. Et le soir où j'ai démissionné, j'ai quitté la machine à coudre, mais genre en mode instinctif, tu vois. Il n'y a eu aucune réflexion, c'est juste le soir, je suis rentrée, j'étais... soulagée, libérée, et j'ai sorti ma machine à coudre et tu te dis c'est fou quoi.
Ouais c'est dingue et moi j'ai senti aussi, je me souviens en pensant à notre échange, tu vois des petites choses. En fait, quand je préparais mon spectacle, je me souviens d'un jour dans mon salon où je préparais mes accessoires et je ressentais une espèce de joie pure de créer. Moi je suis pas une laborieuse, j'aime pas bosser et tout, enfin je fais les choses, enfin je suis un peu une glandeuse, mais là je faisais, ça allait vite, je fabriquais mes trucs et tout avec un sourire collé aux lèvres, tout était une évidence en fait.
Ouais, on dit que c'est le flow, c'est le truc où il y a pas d'effort en fait, tu le fais naturellement en fait.
Ouais. Et ces moments-là, c'est quand même assez dingue.
Ouais.
Et faut pas les perdre parce que là aujourd'hui, je fais plus ça, mais bon, je sais très bien qu'il y a toujours ça en moi, quoi.
Ouais, après, tu vois, c'est ce que je me disais en voyant, parce que du coup, je suis les débuts de Joe depuis que vous avez lancé ça. Et en fait, quand je te vois faire les petites vidéos avec ton associé et tout, ouais. Je me dis, bah, finalement, elle perdure, parce que ça fait partie vraiment de votre identité de marque. Et ouais. Je me suis dit, bah, c'est une façon pour elle de continuer à vivre la chose, en fait.
Ouais, complètement. Et c'est aussi ce qui nous a démarqué aussi dans la com.
Ouais.
Donc c'est marrant parce que tu vois on aurait pu dire enfin c'est pareil en fait après mon spectacle du coup j'ai un peu démarché des boîtes c'était un peu la déprime à Nantes en mode oui bon ben voilà je peux vous faire votre j'ai fait du one woman show et je sais pas quoi je peux vous faire de la communication les gens me regardaient d'un air très bizarre et en fait aujourd'hui dans mon métier chez Jo donc je suis cofondatrice donc je fais la stratégie etc mais il y a aussi tout le côté communication que j'ai en charge ouais. Et en fait ce qui m'a le plus servi c'est le journalisme pour écrire des vidéos mais aussi dans la communication ce qui m'a le plus servi aujourd'hui c'est mon spectacle. C'est ça qui est dingue. Parce que, en fait, il n'y a pas de moment plus. En communication, le moment le plus pur, c'est quand tu es face à des gens et sur scène, en fait, tu apprends à mesurer jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qui peut émouvoir les gens, jusqu'où ils peuvent me suivre, jusqu'où ils peuvent comprendre mon délire, comment je peux les convaincre. Et ça, c'est sur scène que c'est, l'expérience est la plus forte. Et après, ça t'apporte énormément dans tes communications partout, même, tu vois, même sur LinkedIn et tout ça. Ouais. Et c'est ça qui m'a apporté le plus. Donc voilà, ça milite encore plus en faveur de faut arrêter de regarder les gens d'après leur CV, mais voir ce qu'ils ont fait à côté, quoi.
Ouais. Et avant de monter Joe, est-ce qu'un jour tu t'étais. Enfin, c'était l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'inspirait, qui t'excitait?
Mais alors, pas du tout. Au contraire, je me disais que ça allait être que des emmerdes, de l'administratif, des responsabilités, manager des gens. En plus, vu le regard que je pose sur le mot management, pour moi, c'était un enfer. Donc, mais jamais je me serais lancée là-dedans, quoi. Jamais.
Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu t'es lancée?
Et ben en fait c'était une rencontre, mais alors c'est marrant, c'est un peu comme le spectacle, tu sais, quand t'attends plus rien de rien, ça tombe dessus. Ouais. Et parce que ouais, le spectacle c'était quand même de la chance. Quand je raconte mon histoire à des artistes, c'est ah d'accord, t'as eu un producteur tout de suite, tu te rends compte de ta chance. Et là en fait c'était donc j'étais à Nantes, je savais plus quoi faire de ma vie, et puis il y a Sébastien qui me disait cherche du boulot quand même, envoie des CV et tout ça, et je lui disais, mais je me souviens en plan, je disais mais je ne peux pas, je ne veux plus le monde du travail, parce que et le showbiz ça s'était un peu mal terminé quand même, c'est, tu vois, le côté balance ton porc, il était pas encore arrivé, il est arrivé un an plus tard, mais j'aurais pu en balancer des porcs, hein, donc vraiment à bout de souffle quand même sur la confiance que je pouvais avoir dans le monde du travail, dans une collaboration quelconque. Et donc Seb me dit, ouais, il y a un mec qui est venu là dans notre start-up aujourd'hui témoigner. C'est un Américain, il est arrivé à Nantes, il veut monter un incubateur, il cherche des entrepreneurs. Il a raconté son parcours et c'est vraiment à l'américaine. C'est un mec qui regarde les personnalités plutôt que le CV. Contacte-le. Et donc moi j'ai contacté, donc je regarde, le mec avait fait un formulaire de pour postuler vaguement à son truc, donc il explique, voilà, je monte un incubateur, un start-up studio à Nantes, si vous êtes entrepreneur remplissez ce formulaire et puis peut-être qu'on se rencontrera. Et le formulaire c'était quelle boîte vous avez montée avant, quels sont les entrepreneurs qui vous inspirent, machin, donc le truc j'étais là, et j'ai rempli son truc mais en mode vénère. C'est, j'étais là, mes bandes de bâtards et vos questions de merde, tu vas encore prendre des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et là, j'ai été, mais en fait, j'étais vraiment vénère. J'étais là, bonjour. En fait, je suis journaliste. Je n'ai jamais fait d'école, mais voilà ce que j'ai fait. 5 mois plus tard, j'étais à l'antenne sur une émission regardée par 2 millions de téléspectateurs. Et j'ai fait du documentaire, alors que tout le monde m'avait dit qu'on ne fait jamais de télévision après la presse écrite. Puis, on m'avait dit que, je sais pas quoi, que personne, voilà, qu'il fallait avoir fait du théâtre pour monter sur scène. Voilà ce que j'ai fait. Tant d'années, enfin, quelques mois plus tard, j'étais à la une de ça, et je mettais les liens vers tout. Mais la fille vénère, hyper sûre d'elle, alors que juste j'étais détruite et j'en avais ras le cul. Et je me suis dit, mais le mec, il a tout pris, quoi, dans sa tronche, et il a dû se dire en lisant le truc, mais elle est folle, alliée. Et finalement, j'ai eu un petit mail de son assistante qui me dit, bonjour, on aimerait vous rencontrer. En fait, entre temps, le mec s'était quand même rencardé auprès d'un mec du réseau nantais, d'un entrepreneur qui me connaissait, en mode, celle-là, faut la rencontrer ou pas?
Elle est allumée ou c'est...
La folle dingue, là, l'artiste, voilà. Et en fait, c'est le boss de mon mari qui me connaissait bien et qui a dit, oh ouais, elle a une mentalité d'entrepreneur, go, vas-y. Ouais. Et donc, je rencontre le mec qui savait pas encore très bien parler français. Et moi, ça faisait hyper longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Mais bref, du coup, le mec me dit, oui, bon, ben voilà, on aurait tel projet. Aussi, il y a un truc qui cartonne aux États-Unis, c'est une start-up qui fait des tampons en coton bio par abonnement. Et là, mon côté journaliste santé se réveille. Je dis, what? Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Parce que, enfin, moi, au magazine de la santé, on faisait des choses sur tout ce qui pollue le corps, etc. Et quelques mois avant, il y avait un documentaire qui était passé à la télé qui s'appelle Tampons l'ennemi intime, qui était passé sur France 5 sur, ben voilà, il y a que de la merde dans nos tampons. Ouais. C'est des trucs cancérigènes qui seraient interdits dans les shampoings, qui sont interdits dans les douches et dans les gels douches et tout ça. Mais par contre, pour les tampons, pas de souci, on y va, mesdames. Ça fait pendant 30 ans, 40 ans de votre vie, vous mettez un truc hyper toxique dans le corps et il n'y a pas de problème. Et personne n'en parlait. Et ce qui était dingue d'ailleurs, c'est de dire le tabou ouais, qui est autour de ça. Et donc là, je lui ai dit, ah, c'est une super idée, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Il dit, je sais pas, mais en tout cas, ce serait bien de lancer ça en France. Je dis, ah bah oui, là, c'est sûr qu'il y a un marché. Et là, il me dit, bah, si tu devais... est-ce que tu saurais faire une communication d'une minute, par exemple? Qu'est-ce que tu ferais? C'était en mode test pour communiquer là-dessus. Et là, je le regarde. Et là, pareil, la fille, l'espèce de folle dingue se réveille. Je lui dis, écoute, quand j'étais enceinte, je suis partie 9 jours au Bangladesh. J'ai vomi dans les bidonvilles pour faire je sais pas quoi. Je suis revenue avec un super reportage et tout. Donc, je termine pas. So, yes, I can make a 1 minute video, okay? Et le mec m'arrête. Bon, j'étais encore un peu dans ce truc-là. Donc, le mec a dû penser... Enfin, voilà. Heureusement qu'il avait eu des bons échos parce que... Donc, l'entretien se termine. Et là, on est parti. C'était le jour... Enfin, on est parti à Madagascar. Et j'ai tout coupé. Tout coupé. De toute façon, on était obligés. Et vraiment, sans rien attendre, parce que je me disais, mais évidemment que le mec va prendre des gens d'HEC pour faire ses trucs. Et en fait, je demande, et là c'est marrant, j'ai demandé à Seb, on était à Madagascar dans les derniers jours de notre séjour, on est resté 4 semaines là-bas, et je dis à Seb, est-ce que tu peux écouter mon répondeur? Parce que j'avais un petit projet avec une fille super sympa, et en fait, j'avais tellement tout le temps des mauvaises nouvelles, je lui ai dit, je suis sûre que sur mon répondeur, elle va me dire que finalement ça marche plus, qu'elle veut plus bosser avec moi et tout ça. Et Seb écoute mon répondeur. Je voulais même plus écouter mon répondeur à l'époque, quoi, tellement c'était la loose professionnelle. Et Seb me dit, eh ben, il y a Rob Spiro, donc cet Américain, qui veut que tu le rappelles parce qu'il veut que tu montes une start-up. Et je dis, quoi? Sachant que le mec avait monté une première start-up à 28 ans, qu'il avait revendue à Google, un truc de maboule, qu'ensuite il a monté The Good Eggs aux États-Unis, qui est aussi une start-up B2C, mais qui a levé 50 millions de dollars il y a 2 ans. Enfin, le mec, juste le petit génie de la Silicon Valley, quoi.
Ouais.
Et donc, le mec me rappelle pour monter une start-up. Moi, l'artiste paumé. Et donc, voilà. Et donc, je l'ai revu. Je lui ai dit, mais est-ce que t'es bien sûr? Voilà. Et donc, oui. Et donc, c'était parti. Et j'ai trouvé... Par contre, il m'a dit, tu trouves une associée. Et j'ai trouvé mon associée, Colline, en 2 semaines. C'était la femme d'un collègue de Seb. Et on se connaissait pas. Elle avait 10 ans de moins. On a bu un verre ensemble, on s'est poilé parce qu'elle est très très drôle, et on s'est dit ok, bingo, on y va.
Et c'est fou, ça, parce qu'en plus elle a fait un abandon de poste.
En fait, Colline, qui avait un parcours assez conventionnel, école de commerce, marketing digital, bon petit soldat dans une boîte dans l'univers du jouet et tout, elle s'est dit, mais en fait c'est la chance de ma vie. Elle se faisait chier dans son job depuis qu'elle était revenue de son congé mat. Et la seule solution pour elle, c'était de faire un abandon de poste parce qu'il faisait pas de rupture conventionnelle, ce qui est pas du tout dans sa nature. Elle est tellement droite, etc., que pour elle, mais donc c'est vraiment qu'elle en voulait, quoi. Ouais. Et donc elle m'a rejointe 15 jours après que j'ai commencé à travailler sur le projet, dans ce startup studio avec cet Américain et quelques autres boîtes. Et donc c'était parti. Jo est née comme ça.
Oui, et puis là, donc là, Joe a 2 ans.
Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé Joe.
Ouais.
Et ça cartonne.
Ouais, ça, vous super. Avez levé 2 millions, c'est...
Ouais, on a fait une première levée de fonds. Alors, tu vois, on n'y connaissait rien, nous, hein, enfin, en business ouais. et tout. Et en fait, on s'aperçoit que, en fait, moi, je me suis lancée là-dedans en mode, bon, bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. On verra bien. Être entrepreneur, c'est pas mon truc, mais on verra bien. Et en fait, je me suis aperçue que ce que j'avais fait dans le journalisme, le journalisme, en fait, tu t'aperçois que tu te démerdes toujours pour faire plein de trucs avec des bouts de ficelle. Donc ça sert vachement d'entrepreneuriat. Que tu as toujours des gens pour t'aider, plein d'entrepreneurs à Nantes, toujours OK pour te donner des conseils, etc. Et bon, après, c'est vrai qu'il y avait aussi Laura de cet Américain qui faisait qu'on s'intéressait à cette start-up qui allait naître dans son start-up studio. Ouais. Et puis le spectacle qui m'a vachement aidée pour la com. En fait, je me suis aperçue que, je savais faire plein de trucs. Alors, moi, on me renvoyait dans la gueule que je savais poser des questions, écrire des articles. C'est tout ce que mes derniers entretiens, c'était ça. En fait, tu sais faire plein de choses. Et pareil pour Colline. Et deux, en fait, mais quel bonheur de ne pas avoir à être choisie, mais de choisir. Quand tu es entrepreneur, tu choisis, quoi. Et en fait, j'avais passé ma vie à être choisie dans le journalisme, dans le showbiz. Faut toujours t'attendre ça. Et là, en fait, c'est toi qui as les rênes et qui choisis. Et ça, franchement, c'est une liberté qui est inestimable, quoi. Et donc, au bout de 2 ans et demi, on a grandi de manière assez... on pensait pas qu'on arriverait jusque-là. Ça marche et tout. Enfin, c'est hyper cool. Donc rien n'est gagné parce que ça reste une start-up et donc la rentabilité elle arrive pas tout de suite, mais n'empêche que ça marche. On hallucine un peu, mais surtout on n'a personne au-dessus de la tête, quoi.
Ouais. Vous êtes libre.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite ?
C'est complètement bateau ma réponse, mais c'est être heureux là où on est.
Ouais. Et être heureux, ça veut dire quoi pour toi ?
Eh ben, je sais pas encore, tu vois, parce que typiquement, être heureux, juste c'est se lever en ayant le sourire et en étant content de la journée qu'on va passer, et tu vois, tous les jours. Trouver sa place vraiment, ce que tu dois faire dans la vie, etc. Je sais pas. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un compromis. Où j'ai pas de chef, où je peux m'exprimer, ma créativité peut s'exprimer, etc. Mais n'empêche qu'il y a toujours ce côté pression financière, des chiffres, etc. Donc je m'éclate. Et en fait, je suis dans cette question, mais parce que j'ai vécu le bonheur ultime sur scène, mais c'est pas la vraie vie. Et du coup, là c'est super. Mais est-ce que c'est pas tout ce qu'il faut attendre, tu vois? Je sais pas s'il faut, tu vois. Où il y a certaines personnes, une poignée de gens qui se réveillent en faisant les choses comme tu disais tout à l'heure, qu'on flot, tu vois, je sais pas, ça peut être un cordonnier, ça peut être un menuisier, ça peut être je sais pas, n'importe qui, je sais pas pourquoi je pense à des métiers plus manuels et créatifs, mais bon, voilà. Mais où vraiment, tu vois, le matin, c'est une évidence. Donc moi, c'est pas ça. Il y a le matin, wow, ça saoule cette journée, j'ai pas envie, telle réunion, tel rendez-vous, machin. Mais en général, je suis quand même hyper contente de ce que je fais et ça marche et j'ai la bonne associée. Et j'ai des gens bien autour de moi et tout. Est-ce que c'est bon, je suis arrivée et je me pose encore la question. Est-ce qu'il y a autre chose où ce sera complètement ma place? J'en sais rien. Qu'est-ce que t'en dis, toi?
Je pense que c'est une vraie question parce que en effet, t'es passé de métiers extrêmes les uns par rapport aux autres. Après. Moi, je crois assez que on est tous sur Terre pour une bonne raison. Après, c'est ce qu'on appelle ikigai, la raison d'être en japonais. Ouais. Mais que cette raison d'être, on peut la retrouver à la fois dans son travail ou en parallèle. Après, tu vois, moi là, je suis en train de créer ma société au bout d'un an de chômage, donc c'est un peu la fête. Et en fait, je me pose beaucoup de questions parce que voilà, moi, mon dernier job, ça s'est mal fini parce que j'ai fait un burn-out et que du coup, même si aujourd'hui, j'adore ce que je fais, il y a toujours le truc en mode, Charlotte a beaucoup d'énergie, parce que j'aurais beaucoup d'énergie. Comment je fais pour ne pas me cramer, en fait? Ouais. Et je pense que finalement, c'est, puis tu vois, par rapport à ce que tu disais, où t'as la pression permanente de l'argent ou, de l'argent des KPI et compagnie. Ouais. Vous, votre business, pour pouvoir avancer, vous avez dû lever des fonds.
Ouais.
Moi, tu vois, je sais que c'est une grande question que je me pose. C'est est-ce que je vais recruter un jour, lever des fonds? J'ai envie de dire aujourd'hui, je te dis non, j'ai pas du tout envie parce que j'ai plus envie de rentrer justement dans ces KPI de la lead gen et compagnie. Après, mon projet, il me porte tellement, il est tellement important pour moi et je me dis que finalement, bah peut-être qu'un jour, pour pouvoir accomplir ma mission, je serai obligée de passer par ça.
Ouais.
Tu vois, ça me fait penser à Caroline Abadie que j'ai interviewée, qui était dans le marketing digital au niveau RH à Paris. Et elle a quitté Paris parce qu'elle n'en pouvait plus de Paris. Donc, petit parallèle avec toi.
Ouais.
Et elle n'en pouvait vraiment plus. Et en fait, donc, avec son mari, ils se sont dit, son mari a été muté, il me semble. Et en visitant des maisons, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Et elle s'est dit, cette maison-là, elle serait parfaite pour faire une chambre d'hôte.
Ouais.
Donc elle a ouvert une chambre d'hôte, ça marche super bien et tout. Et puis un jour, elle écoute la radio et puis elle tombe sur France Inter, je crois. Et là, elle entend parler de l'appel d'Emmanuel Macron aux femmes pour être députée.
Ouais.
Et là, elle se dit, mais en fait, je peux plus rester dans ma cuisine à râler si moi je bouge pas en fait.
Ouais.
Donc elle s'est présentée et elle a été élue députée. Et en fait, Caroline, elle dit, mais en fait, moi, je détestais parler en public, je détestais la vie à Paris, et en fait, je me retrouve députée à Paris, enfin à Paris, à bosser à Paris, du coup, quand même une grosse partie de sa semaine. Et elle dit, clairement, je sais que j'ai besoin de passer par là, je fais tout ce que je voulais pour ma vie perso, j'y suis pas du tout parce que voilà. Ouais. Mais c'est un moment à passer en fait pour pouvoir accomplir ma mission. Donc ça, je pense que c'est un grand débat.
Ouais,
enfin un grand sujet.
Débat. Après dans ce compromis, en fait, je me suis fait accompagner parce que en juin dernier, avec Colline, il y a eu un moment trop de pression. Puis c'était une année difficile parce que on a fait cette levée de fonds et elle a accouché exactement en même temps. Enfin, c'était pour l'une comme pour l'autre, c'était hyper dur et on s'est retrouvé. On a vachement recruté et on s'est retrouvé à un virage de l'entreprise où on avait recruté, mais on prenait encore vachement de choses sur nos dos. Enfin bref, on s'est retrouvés chacune à faire le boulot de 4 personnes. Et on a cramé. Et en fait, on pleurait tous les jours, toutes les deux. On se disait, pour pas montrer à l'équipe, ça dit qu'on prenne un petit thé. Et on se mettait à chialer. On s'est dit, ça va pas du tout. Ouais. Et en fait, il y a une fille qu'on connaît de l'ancien startup studio qu'on rencontre de temps en temps qui nous a dit, mais les filles, ça va pas du tout là, vous êtes pas du tout alignées, faites-vous accompagner. Et on a rencontré une coach super et qui m'a dit, en fait, moi j'avais un problème, c'est que je me sentais, en fait, ça y est, j'avais créé Jo, donc il y avait la côté création de la marque, création de la com, du ton, de tout ça, pour moi c'était éclatant et c'était ce que je savais faire. Et puis là, je me retrouvais au bureau, à rentrer chez moi, les yeux défoncés par l'ordinateur, à faire des tâches chiantes. Et je me disais, non, mais c'est pas moi et j'en peux plus. Et surtout, je ne peux plus rien apporter à la boîte. J'ai rien à apporter. Moi, dans une entreprise, ça veut rien dire. Je suis une artiste, moi. Je suis pas ça. Et j'ai rencontré cette coach qui m'a dit, donc, on a discuté. Et je disais, oui, non, mais après, je sais où doit aller la boîte. La stratégie, je l'ai en tête, machin. Elle m'a dit, mais ça, c'est précieux. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas. J'ai honte, mais je peux pas faire de 9h à 18h quelque part. Moi, j'ai toujours été journaliste où il fallait aller ailleurs, on sortait du bureau. Elle m'a dit, oui, parce que t'es une créative profondément, et les créatifs, le bureau, toute la journée, ça les tue, ils meurent. Mais elle m'a dit ça comme ça, elle m'a dit, les créatifs, ils meurent. Et donc, j'ai dit, mais c'est exactement ce que je suis en train de ressentir, c'est que je suis en train de mourir à l'intérieur. Et elle m'a dit, mais oulala, t'es hyper précieuse pour ta boîte, parce que t'as la vision, t'as la stratégie. Elle me dit, déjà, tout le monde l'a pas. Et en plus, t'es une créative et tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire pour une boîte. Et donc, elle m'a dit, mais garde ça. Et je lui ai dit, mais moi, en fait, je suis vachement plus efficace à marcher dans la rue ou à aller faire une heure de surf. Et dans ma voiture au retour, je trouve dans ma tête la vidéo qui va faire qu'on va acquérir 10 000 clientes en ligne et qui va faire poêler tout le monde, plutôt qu'être à mon bureau devant un ordi en train de me dire qu'est-ce que je vais faire comme communication. Et elle m'a dit, et alors, c'est toi la chef, barre-toi, va faire du surf, et puis au retour tu trouves ta vidéo et c'est ça qui va faire avancer ta boîte. Et elle m'a complètement décomplexée là-dessus. Et donc aujourd'hui, je me donne le droit d'être une artiste créa dans ma boîte. Et oui, je suis fondatrice et oui, je suis chef d'entreprise, mais n'empêche que c'est moi. Donc,
c'est génial.
Ça m'a vachement, vachement aidée à partir depuis septembre. Bon, il y a encore des moments un peu difficiles, bien sûr, mais n'empêche que ça, ce discours-là m'a complètement décomplexée. Et en plus, je sais que je peux en parler à l'équipe. L'équipe, elle comprend ça aussi. C'est OK, bah, de toute façon, si je ponds des bonnes idées, bah, que ce soit chez moi, dans mon canapé ou derrière un bureau, peu importe, quoi.
On s'en fiche, ouais. Ouais. C'est clair. Mais ça, je pense que c'est très français, cette espèce de être au bureau, le présentéisme.
Je devenais complètement complexée à me dire, bah zut, je suis plus bonne à rien, je leur sers plus à rien, vaut mieux que je passe la main, que je trouve un DG et que je me casse, quoi.
Ouais. Ouais, je pense, de toute façon, je pense que c'est le vrai sujet, tu vois, que je vois avec les personnes que je suis avec en chemin.
Ouais.
C'est le rôle, en fait. C'est quel est ton rôle dans ta boîte qui doit évoluer, mais du coup, c'est. Ouais.
Bah, avec ce que tu es, où est ta place, quoi? Mais vraiment, ouais. Avec ce que tu es. C'est ça le truc.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Dorothée de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Elle dirait pourquoi t'as pas fait le cours Florent? Parce que ça, c'est quand même une question que je me pose vachement. Dans les moments durs, hein. Parce que dans les moments, tu vois, en ce moment, tout va bien au taf, c'est chouette, enfin, on a un bon équilibre et tout. Donc, je me pose moins la question, mais il y a quand même ce truc sous-jacent de t'as qu'une vie, t'en rêvais depuis toujours, t'es une comédienne au fond de l'âme, pourquoi tu l'as pas fait? Elle dirait ça. Mais elle dirait quand même, ah bah, c'est chouette ta vie, quand même. C'est chouette.
Parce que, et le cours Florent, tu pourrais le faire?
Ouais, mais bon, là, enfin, j'ai aucune envie de connaître la galère, tu vois. Ouais. Faut être réaliste aussi, c'est comme là, j'ai 43 ans, commencer revenir sur le marché à 43 ans, alors qu'il y a des gens hyper talentueux qui galèrent. Non, c'est pas. C'est juste que je l'ai pas fait, quoi. Là, je pourrais pas faire. Par contre, je garde en tête quand même mon rêve, c'est de faire un spectacle, tu sais, à 80 ans, la mémé qui balance tout quand on n'a plus rien à foutre, quoi.
Ouais.
J'adorerais. Non, mais ça, je sais que je remonterai sur scène, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, je me dis, j'aurais adoré vivre en troupe, tu vois, vivre avec une troupe de théâtre. Après, ça, c'est vraiment le côté, tu vois, le tout beau côté. Après, la vie de comédien, c'est très, très dur. J'en connais qui sont hyper talentueux, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu, et qui disent, c'est trop dur ce métier. Donc, c'est un métier qui est très dur. Mais n'empêche, c'est un truc que j'aurais quand même aimé faire à fond. Après, j'ai quand même bien poussé le truc à fond avec le one-woman show. Ouais. Mais bon, n'empêche que si après mes études, j'avais fait le cours Florent, je sais pas ce qui se serait passé. Ouais. Mais quand même contente de tout ce qui s'est passé et surtout de ma famille qui est un peu et de la vie de famille que j'ai qui est quand même un peu le centre de ma vie, quoi.
Ouais. Qui dit choix dit renoncement. C'est quoi du coup tes renoncements à toi?
La liberté. Parce que j'ai un travail, liberté parce que j'ai une famille et que j'ai envie de découvrir le monde, mais c'est des choix que je suis heureuse d'avoir fait. Ouais.
C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues à gérer du coup pendant tout ton parcours et comment tu les as gérées?
C'était la pression que je me mettais à moi-même de devoir réussir à tout prix et de devoir enchaîner les Everest. Tu vois, mon mari me dit toujours, mais tu te fixes à chaque fois, il y a un Everest devant toi. Pourquoi est-ce que tu fais pas les choses plus posément, quoi? Et ça, c'est une pression que je me suis mise tout le temps et, c'est épuisant. Ça, c'était la plus grosse difficulté.
Et comment t'as géré, du coup? Comment tu l'as traité, cette difficulté-là?
Avec un psy. Ouais, il y a eu un moment, j'explosais et je suis allée voir un psy qui m'a fait comprendre d'où ça venait et qui, rien que de comprendre d'où ça vient, ça c'est perso, donc j'en parlerai pas.
Ouais.
C'est un rapport aux parents, quoi. Le fait de le comprendre m'a fait redescendre. Mais après, ça fait partie de moi aussi. J'ai l'esprit de compète. Tu vois, là, le surf, j'ai quand même vachement envie de progresser. Alors que bon, franchement, je suis pas très souple et je suis pas très forte. J'ai quand même ce truc-là où j'aime bien. J'adore la performance. Ça fait partie de moi et j'adore ça. Mais après, est-ce qu'il est nécessaire, franchement, de devoir absolument tout exploser dans tous les domaines? Non, on peut se détendre un peu quand même, quoi. Donc, il y avait ça et mon manque de... Je n'ai aucune carapace contre l'agressivité. Ouais. Et ça, et du coup, il y a vachement eu de rapport, justement, avec la hiérarchie, avec les chefs et tout, qui m'ont fait énormément de mal, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup souffrir. Ouais. Et voilà, qui me faisaient arriver au bureau avec des nœuds au ventre et tout. J'ai aucune carapace contre ça.
Ouais. Bah, c'est un vrai sujet.
Ouais.
Ouais. Ça a été quoi tes plus grandes peurs en montant Jouf?
Que ça foire, justement. Fallait pas que ça foire, parce que fallait que je réussisse, parce qu'il faut absolument que Dorothée Drevon, c'est mon jeune fille, réussisse.
Ouais.
C'était donc il y a pendant j'ai fini au bout de la première année à 8 de tension avec mon médecin qui m'a dit soit vous fermez votre ordi et pendant les week-ends et à partir de 18h, soit vous allez y passer parce que t'as vécu en fait. Donc ouais, c'était le burn-out et en fait ma grosse peur c'était que ça marche pas et ça me foutait une telle pression que ça commençait à être assez nocif pour moi quoi.
Ouais, dangereux même du coup pour ta santé quoi.
Ouais, carrément. Et donc ça a été ma plus grosse peur. Après nous on est un peu avec avec mon associé donc j'ai vraiment trouvé ça j'insiste l'associé en or. Tout ça serait jamais arrivé sans Colline avec l'attention qu'on a l'une pour l'autre et tout l'humour qu'on met dans tout ce qu'on fait. Et on a ce truc de dire c'est quoi si ça foire, franchement, on se sera bien marré.
Ouais. Ouais, c'est chouette de dire ça.
Après, ouais, c'est pas facile de se le dire, mais
c'est ce que disait Émilie là, que c'est l'épisode que je sors ce matin. Et Émilie, elle disait qu'en fait, à partir, elle était commerciale et aujourd'hui, elle est en train de faire une école pour devenir décoratrice d'intérieur.
Ouais.
Et elle disait en fait, j'ai réussi à me dire stop à ma vie d'avant à partir du moment où j'étais prête à me dire que ça pouvait échouer. Évidemment, ouais. J'ai pas envie que ça échoue, mais à partir du moment où je me suis dit, ok, je suis prête à ce que ça échoue. Enfin, en gros, je survivrai si ça échoue. Ça lui a libéré en fait toute sa pression en fait.
Eh ben complètement, et c'est ce que m'a dit un entrepreneur aussi à qui j'ai parlé dans cette période-là où ça allait pas quoi. Et il m'a dit, tu sais quoi, dis-toi, qu'est-ce que je vais faire? Ah, voilà, ça échoue, qu'est-ce que je fais? Et une fois que tu sais ce que tu vas faire quand ça échouera, ça va.
Ouais, ça te permet de...
Ouais, d'enlever la pression.
Ouais, ouais carrément. Mm. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
De mes enfants. De mes enfants, ouais. Bon, voilà, je vais faire la mère un peu relou, mais je les trouve trop bien. Non, et de mes enfants. Et de Jo aussi, je suis hyper fière, en fait, parce que... toutes mes expériences professionnelles à chaque fois, en fait, avec du recul, un regard extérieur, on se dit waouh, c'est dingue ce que j'ai fait. Mais à chaque fois, je me sentais pas, je prenais ça comme des échecs en fait à chaque fois que j'arrêtais.
Ouais.
Et en fait, là, Jo, je sais que c'est une, je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend, des choses qui ont du sens. On a une vraie action solidaire pour des associations et ça a vachement de sens. Je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire avec Colline, avec nos petites mains, sans être dans le réseau, dans le bon réseau parisien, machin. Je suis hyper fière de ce qu'on a fait, ouais.
Ouais, vous pouvez, hein. C'est une super aventure. Et puis, un super, super produit.
Ouais.
S'il y a une personne qui arrive que à la fin là, de l'épisode et qui entend que Jo, ça cartonne et tout, et qui te dit, mais en fait, tout ça, ça n'est arrivé que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
Non, c'est faux. Il y a une part de chance, bien sûr. Mais c'est... Ah non, c'est faux, connard. Gros con, dégage. Non. Dis donc, c'est vachement de boulot, vachement de... Et toutes les expériences que j'ai eues mises bout à bout, même si de temps en temps il y avait un sentiment d'inabouti, font que aujourd'hui Jo cartonne et que non, c'est pas de la chance les gars. Ouh là là. Non, la chance qu'on a eue avec Jo, c'est d'arriver au bon moment sur le bon marché et d'avoir rencontré Rob Spiro, cet Américain qui nous a donné cette idée. Mais tout le reste, il y en a d'autres qui sont sur le marché. Il y a d'autres boîtes qui font la même chose que nous et ils marchent pas aussi bien. Et c'est parce que on a fait les choses bien, Colline et moi, en se servant de toutes les expériences qu'on a eues et de notre perso et c'est beaucoup, beaucoup de boulot et d'empathie surtout envers les clientes et tout ça, l'empathie notamment, je l'ai appris avec le journalisme et le spectacle et c'est pas de la chance.
Ouais. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
J'aurais aimé qu'on me donne, c'est détends-toi, ça va aller. Ouais, détends-toi.
Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ah, le meilleur conseil, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, Putain, c'est pas facile ça. C'est pas facile. Parce qu'on a, en fait, on entend plein de conseils dans tous les sens et j'ai l'impression qu'au bout du compte, et ce qu'on fait au quotidien avec Colline, c'est on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Et parce qu'il y a trop de conseils dans tous les sens, ouais. Des gens qui disent des choses différentes, c'est et nous, au fond, tout au fond, qu'est-ce qu'on en pense? Donc finalement, c'est le conseil qu'on se donne à nous-mêmes.
Bah ouais, non, c'est super. C'est, de toute façon, c'est souvent ce que les gens disent, hein, c'est que une des clés de la réussite, c'est de prendre suffisamment de conseils. C'est, je crois que c'était Mathieu Tordeur qui disait ça. C'était son conseil à lui, c'était de prendre suffisamment de conseils pour pouvoir être serein avec ta décision, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et assumer le fait de faire ce que ta petite voix à toi.
Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la décision au bout du compte, mais au moins c'est toi qui l'as prise.
Ouais. Ouais,
tout à fait.
C'est quoi tes prochains défis?
Mon prochain défi, c'est de refaire un grand voyage en famille. Ouais. C'est pas forcément un défi, mais bon.
C'est de... bon, en ce moment, un peu, hein.
Ouais, c'est clair, c'est un gros défi. Mon gros défi perso, c'est de m'améliorer au take-off en surf. Et après, des défis, en fait, on en a suffisamment au quotidien avec Joe, donc c'est plus des petits défis perso comme ça. Ouais. Le gros défi, c'est de, un gros défi, là, il est professionnel aussi, c'est de, là, on a un cap à passer avec Joe, c'est de devenir une belle marque installée, quoi. De passer de start-up à belle marque installée.
Parce que ce que je vous souhaite de tout cœur.
Merci.
À qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
À mon mari pour son soutien et son humour, toujours.
Et puis, je vais remercier aussi ton mari parce que sans lui, je ne te connaîtrais pas.
Ouais, bah moi aussi, je le remercie de nous avoir mis en relation.
Ouais. Un immense merci, Dorothée, pour ce super témoignage. Et puis, bah, j'espère
merci à toi, Charlotte.
À très, très vite.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. On parle assez peu de Joe, car il y avait tellement à dire sur Dorothée. Je vous mets bien évidemment tous les liens sur le blog. Pour les petits curieux, Joe veut dire juste et honnête. J'adore. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?